Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bon, vous êtes prêtes?
Ouais.
Allez, 3, 4. Bonsoir!
Je suis désolée pour ce qui vient de se passer.
Moi, je suis trop contente de revenir.
Il faut être désolée pour elle parce que c'est elle qui a le casque.
Bah non, mais moi j'ai crié loin.
Ah ok.
Attends, moi je sais me...
Toi t'es une pro toi.
Bah oui, moi j'ai une
pro, écoute, voilà. Bonjour, je suis Alix Martineau, je suis chercheuse des podcasts chez Mademoiselle et bienvenue dans le 109e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Bonsoir à tous. Ce soir avec nous, on a Dorothée. Doro.
Pourquoi dire ce soir alors qu'il est 16h et que les gens vont écouter ça le matin?
Mais Mimi, tu casses l'ambiance. Putain, les gens, ils écoutaient à 6h du mat', ils croient qu'on est en teuf et tout. Alors qu'en fait...
Elle a trop d'énergie.
Mais nous avons aussi Mimi.
Bonsoir.
Coucou Mimi.
Voilà, t'as compris.
Coucou. C'est toi que je préfère.
Merci Kalindi.
Super. Eh ben...
Je ne m'avancerai pas sur qui je préfère car je suis votre supérieur hiérarchique et je n'ai pas le droit. Voilà.
Eh bien, il y a aussi moi, voilà, Alix Martineau. C'est tout, bien sûr. Il n'y a personne d'autre. Si, bien sûr, il y a Kalindi.
Bonsoir.
Bonsoir. Aujourd'hui, eh bien, donc, comme je disais, c'est le 109e épisode de LMK, donc on va commencer comme d'habitude avec les commentaires de la semaine. Alors, est-ce que vous avez un petit peu des commentaires?
Moi, j'ai un commentaire qui n'a rien à voir avec LMK.
Super, et ben voilà, vas-y, balance.
C'est un commentaire Le Bon Coin sur une voiture qui était en vente.
Non, mais ce serait hyper drôle de faire des commentaires random comme ça.
Non, c'est déjà trop long, Alix.
Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal.
Il y a Philippe qui a dit
à Transavia
excellent.
Et tout, top. Non, mais je trouvais que c'était marrant. Alors, c'est Grégoire qui m'écrit. J'ai rêvé que je te voyais dans un zoo. On marchait bras dessus, mais toi et tes potes, vous disiez que j'étais chum. Sauf que dans mon rêve, ça voulait dire trop beau, donc j'étais trop content. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur
j'adore
commentaire.
J'adore ce rêve.
Voilà.
J'adore aussi. J'ai un autre commentaire qui a pas grand-chose à voir avec LMK. Enfin,
ah,
si.
Donc on fait ça, vraiment.
Mais non, non. Non, mais c'est pas en rapport direct avec le dernier épisode. C'est Capucine2608 qui a commenté sur Apple Podcast avec...
5 étoiles.
5 étoiles, comme vous devez le faire à chaque fois. Merci beaucoup, Capucine2608. Elle dit... Je redoute l'arrivée de l'automne car l'année dernière, Mimi a insulté les personnes qui mangeaient des clémentines dans le métro. Je fais partie de ces personnes. J'étais justement en train d'en éplucher une dans la ligne 4 quand elle avait poussé son coup de gueule. Du coup, j'avais regardé les gens autour de moi embarrassés et j'avais remis la clémentine dans sa pelure. Que faire? J'adore vraiment les clémentines.
T'as pas honte, Mimi?
Alors, il est tôt pour le point clémentine parce qu'on enregistre, hein, je sais pas, 16 septembre.
Ouais, mais... le commentaire date du 14, donc finalement...
Alors, écoutez, la solution à ce problème est très simple. Il vous suffit de manger des clémentines dans des endroits pensés pour ça, comme par exemple une cuisine. Voilà. Mmh. Et non pas un lieu
public. Pas la cuisine de Mimi.
Non, pas chez moi. Ouais. Mais je pense pas que Capucine a mes clés. Capucine, tu as mes clés, rends-les-moi, s'il te plaît. Mais en fait, mangez des clémentines de la même façon que vous mangez un kebab. C'est-à-dire pas n'importe où. Voilà, vous mangez pas un kebab dans le train, par exemple. Parce que vous savez que ça sent fort. Et bah, ne mangez pas de clémentines.
J'ai envie de soulever un truc, c'est que moi, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, je me souviens que tu faisais des soupes chinoises le matin dans des cups qui sentaient très mauvais.
Bah, et personne ne m'a dit, je n'aime pas cette odeur.
Bah, moi, j'osais pas parce qu'à l'époque, tu me faisais peur.
Et donc, 3 ans plus tard, tu décides. Mais j'ai arrêté les nouilles instantanées.
Bah,
le matin.
Oui, mais à l'époque, tu obligeais tout le monde à sentir ton poulet dans une cup qui sentait le cancer.
Alors,
du cul.
Déjà, c'est des nouilles instantanées aux légumes avec beaucoup de piment. D'accord, il n'y a pas de poulet.
Et bon, ça sentait
moi,
le cancer.
Bien.
Merci, Doro.
C'est pas pour faire la lèche. Vraiment, j'aimais bien.
Mais pour.
Je m'engage à ne plus faire de nouilles instantanées le matin. Sauf s'il y a des clémentines, auquel cas je dirais que c'est fair game. Et comme il y aura des clémentines toute l'année parce que personne ne m'écoute jamais, Eh bien, peut-être qu'il y aura des nouilles instantanées aussi.
Eh bien, voilà, c'était le point Clémentine annuel. Merci beaucoup, Capucine, du coup, d'avoir fait ce point Clémentine. C'est drôle, parce que Capucine, Clémentine, voilà, vous avez capté. Et sinon...
aucun rapport. Bah, c'est une Capucine. J'en ai une fleur, en fait, donc aucun rapport.
Bah oui, mais c'est de la nature, donc...
Ok.
Bah voilà. Bref, j'ai aussi un autre commentaire qui est une dédicace à LMK, une victoire personnelle de Genko03 sur Apple Podcast avec
5 étoiles,
merci. Coucou les LMK, je peux dire enfin j'ai rattrapé mon retard sur tous les LMK qui ont été diffusés. J'ai commencé le LMK numéro 1 en janvier 2020. Et en ce vendredi 11 septembre, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'ai écouté le numéro 107. Maintenant que je suis à jour, je vais devoir attendre patiemment chaque semaine mon petit chocolat, mon petit délice de LMK. J'en profite pour vous remercier de votre bonne humeur, votre amour de la vie, de vos digressions et de m'avoir fait découvrir tellement de choses. LMK devrait être remboursé par la Sécu. Signé Jennifer ou Jenny Flair. Dédicace à Kalindi.
Ça y est, un jour j'aurai ce chien. Merci d'avoir pensé à mon chien imaginaire.
Pas de problème.
Capucine.
Jennifer.
Clémentine.
Jennifer.
Ah oui, Jennifer, elle s'appelle. Ah oui, ça fait sens.
Est-ce que vous avez des commentaires de votre côté?
Moi, j'en ai pas.
J'ai pas trop regardé. Pardon, je vous aime.
Vous pouvez toujours commenter ce que vous avez à commenter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles, comme d'habitude. Mais bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces pour le LMK Rock à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et d'ailleurs, en parlant de dédicaces, j'en ai une aujourd'hui.
Wow.
Comment je fais les ponts ?
Je suis si contente que tu sois revenue, Alix. Vraiment, c'était moins pro quand c'était moi. J'étais là, bon, on va faire vite. Après, on parlait d'autres choses.
Tu sais, oui, bon, Alix sera la prochaine fois.
Clairement, oui.
Mais c'était très bien. Merci, Mimi, de m'avoir remplacée.
Oh, écoute, plaisir.
Du coup, j'ai une dédicace de Pauline qui dit « Je voulais juste faire un énorme coucou et bisou à ma sœur Juliette qui m'a fait découvrir Mademoiselle et par la même occasion, le féminisme, il y a 5 ans. Tu as été et tu seras toujours un immense modèle pour moi, même si tu pars vivre à Nantes l'an prochain. » À Nantes l'an prochain et qu'on sera loin. Je t'aime fort, je suis tellement heureuse qu'on puisse partager plein de choses ensemble, dont LMK et par conséquent, les gros fous rires solo dans le métro. Bref, je t'aime fort, signé Pauline.
C'est trop mignon.
C'est trop mignon.
Oui, vous êtes
j'adore.
Très chou.
Bisous Pauline, bisous Juliette. Voilà, vous pouvez envoyer... Alors ça c'est un exemple de dédicace écrite, mais envoyez vos dédicaces audio, comme ça votre voix apparaît dans LMK. Et ça c'est top. Et sinon, bien sûr... Comme toutes les semaines maintenant, j'ai une anecbof de Star.
Oui, trop bien, ma passion.
C'est le meilleur jingle que j'ai jamais fait. Alors, attention, c'est un mail donc qui a été envoyé à Laisse-moi kiffer. Je vous ai écrit pour vous faire part.
Kalindi, cette hostilité latente m'a tellement manqué. En plus, là, il n'y a pas Cédric pour se prendre des scuds, donc c'est vraiment Alix qui est en première ligne.
Mais c'est surtout qu'en fait, elle se fout de la gueule de ma prononciation depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, elle me dit que je prononce trop les R.
Mais en fait, c'est juste que je me fous pas de ta gueule, mais en fait, personne lui avait jamais dit.
Et moi, mais parce que t'es zinzou aussi. Jamais pensé qu'Alix prononçait trop les R et je lui ai pas dit, comme tu m'as pas dit pour les nuits instantanées, par exemple. Tu vois. Non, quand je pense quelque chose, je le dis.
Non mais quand elle se présente, elle dit Alix Martineau et je suis comme un forain, tu vois, et en fait elle le savait pas, donc je lui ai dit
peut-être que c'est dans ta tête.
Non, parce que maintenant quand je m'écoute, je remarque, tu vois, que mes R sont dans le fond de ma gorge et vraiment c'est un enfer. Alix Martineau, voilà.
Non mais moi j'adore, c'est ça que j'aime chez toi, hein.
Oh, arrête. Donc bref, je vous écris pour vous faire part de 5 anecdotes de stars. Liste non exhaustive.
Waouh ! Alors là, n'hésite pas à renvoyer la liste exhaustive. On la lira peut-être pas parce que c'est long, mais c'est ma passion.
Mais en fait, on va faire un podcast juste là-dessus. Parce que...
Anecdotes de stars, le podcast.
Donc il y a vraiment des tirets. Il y a deux ans environ, j'ai vu José Garcia dans une chocolaterie parisienne avec sa fille. Sans surprise, il est en train d'acheter des chocolats.
C'est génial, c'est incroyablement bof.
C'est en juste plus, c'est lu avec un ton. J'ai vu José Garcia.
Ensuite, c'est du génie.
J'habite juste en face de l'immeuble où vivent les frères Bogdanov.
C'est juste ça. C'est même pas une anecdote, c'est juste des faits.
furie.
Un jour, j'ai croisé Yannick Noah en train de marcher sous la tour Eiffel. Un jour.
Non, mais Alex,
ça va être long. Alex is gone. J'ai tellement hâte que ce soit juste une phrase factuelle comportant le nom d'une personne connue.
J'ai vu Thierry Beccaro dans un restaurant à Paris. Mais aussi en train de jouer au blackjack dans un casino à Deauville.
Waouh, on a double Thierry Beccaro. Incroyable.
Je sais pas qui c'est.
C'est le mec qui présentait Motus.
Ah d'accord.
C'est précisé, enfin, c'est la plus bof des années que bof.
Putain, c'était déjà bien bof, hein.
Lors d'un voyage au Japon, la nappe.
Ouah, c'est laborieux.
Tiens, lis-toi.
Lors d'un voyage au Japon l'année dernière, alors que je marchais dans la gare de Tokyo, j'ai vu apparaître tout un groupe de Japonais complètement surexcités qui suivaient deux mecs plutôt jeunes, probablement américains d'après la façon dont ils parlaient, et accompagnés de gardes du corps. Les Japonais criaient et essayaient d'attirer leur attention pour avoir un autographe, tout en les prenant copieusement en photo. Apparemment, il s'agissait de personnes connues, au Japon du moins. Mais je n'ai jamais su qui c'était... qui c'était, car leur tête ne me disait rien du tout. Trop dommage! Si ça se trouve, je suis passée à côté de deux stars interplanétaires sans même le savoir. Voilà, j'espère que mes anecdotes vous plairont. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me faire autant kiffer toutes les semaines. Didine.
Ah, merci pour ce mail. C'est incroyable ce moment de vie là.
C'est vraiment les meilleures anecdotes que j'ai jamais lues.
Est-ce qu'on peut faire des pronostics sur qui c'était?
Des stars japonaises?
Moi, je pense. Non, des mecs connus au Japon mais apparemment américains et plutôt jeunes, elle a dit. Ah. Moi, je pensais Logan Paul.
Tu crois?
Je sais pas s'il est populaire au Japon, tu vois. Parce que déjà, à l'extérieur des États-Unis, il est vraiment.
Il a vraiment l'image de Bobo. Alors, après, il y a connu et il y a populaire, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Tu peux être connu, mais personne t'aime bien. Mais les gens vont quand même prendre des photos avec toi.
Et Logan Paul, ça fait un. Mais il y en avait deux.
Mais avec son pote,
Brad Pitt.
Et puis, cette personne n'a pas de culture.
Mais elle a dit qu'il était jeune. Brad Pitt, il a 53 ans.
Mais peut-être c'était il y a 30 ans, on sait pas, ça se dit
c'était
pas.
C'était l'année dernière, elle l'a dit.
Alix, il faut suivre les infos qu'on a, ok? On peut pas faire des pronostics si on n'a pas les bonnes infos. C'était en 2019, à la gare de Tokyo, deux mecs américains jeunes.
Ouais, bah c'était... Ouais, Justin Bieber. Sûrement.
Et son frère. Très bien.
Bernard voilà. Bieber.
Glenn.
Bernard Bieber. Ah, peut-être c'était Thierry Beccaro. On ne sait pas. Ah,
Mais non, elle l'a reconnu.
Elle le connaît par cœur.
Ah oui, pardon. Elle l'a vu deux fois.
Ouais, c'est son pote et tout.
Moi, j'ai vu tout à l'heure Mathieu Kassovitz, mais je voulais... Kassovitz, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était sur une moto avec deux grosses roues. Au début, j'ai cru que c'était...
En plus de la moto.
Non, mais en fait, je croyais que c'était un quad au début. Mais après, je me suis rendu compte que c'était que deux roues. Donc, c'était pas un quad, c'était une moto avec vraiment deux roues très larges.
Et Mathieu Kassovitz dessus.
Et Mathieu Kassovitz dessus. En fait, il l'a enfourché. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, personne, les hommes ne me font pas chier dans la rue. Et vraiment, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui m'ont regardé en me faisant des petits commentaires et tout. J'étais là, mais qu'a ma tenue de si particulière aujourd'hui, tu vois? Parce que vraiment, d'habitude, ça m'arrive jamais. Et j'ai été dans des tenues vachement plus dénudées que celle-ci. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant me servir de la nature m'a doté aujourd'hui, apparemment, pour draguer Mathieu Kassovitz.
Like
et donc, en fait. En fait, il est arrivé devant moi. Et en fait, mais je crois que j'avais l'air trop hautaine pour que, tu vois, il aime. Bon.
Je t'imagine juste faire un regard extrêmement de personnes zanziflèques à Mathieu Kassovitz. Et lui qui est là, d'accord madame, putain, il y a des gens bizarres à Paris.
Et moi, le pire, c'est que je capte quand Kalindi, elle voit un mec qu'elle kiffe dans la rue parce qu'elle a une position tout d'un coup qui change.
Non, mais une fois, Non, mais c'est vrai c'est avant-hier que tu m'as vu faire ça?
Ouais.
Bah raconte, sinon c'est pas
ouais, c'est elle bombe.
Non, mais sinon nous on est là, on participe, voilà.
Elle met son menton en bas, elle bombe ses seins et elle fait bonjour.
Ma passion, le mode chagasse de Kalindi.
Donc t'as fait ça à Mathieu Kassovitz?
Non, en fait je l'ai regardé plutôt d'un air méprisant, mais en fait c'était censé être un air sexy, mais je me suis rendu compte que c'était un peu méprisant. Et en fait, comme à chaque fois que je vois un homme qui me plaît, je marche un peu avec les pieds l'un devant l'autre, tu vois. Et en fait tout à l'heure ça m'a un peu déséquilibrée, donc je pense que j'ai eu l'air
juste une personne méprisante qui trébuche. C'est une manœuvre de séduction, c'est de la psychologie inversée, tu vois.
Voilà.
Moi aussi j'ai une anecdote de star.
Ah bah, wow.
Ah bah tu reviens de Deauville, j'espère bien que t'es revenu avec beaucoup d'anecdotes de star. Hein.
Exactement, mais vous en saurez plus peut-être plus tard dans l'émission, je ne sais pas, peut-être, enfin on verra. Mais j'ai une anecdote de star, du coup j'étais au festival du film américain de Deauville pour lequel Vanessa Paradis était présidente du jury. Et en fait, elle venait à toutes les projections où j'étais et un jour, un moment, elle a dit merci au vigile juste à côté de moi. Et du coup, j'ai cru que c'était pour moi. Et c'était juste, elle a dit merci à côté de moi. Voilà. Wow.
Elle a dit c'est merci dans ta direction globale.
Dans la... Pas loin de moi, quoi. Voilà.
Dingue.
C'est top.
Ouais, ouais, c'est...
Ah bah c'est top. Top, je pense que c'est le mot.
Elle a fait...
Merci.
Non, attends, je fais mal.
Merci.
Non, j'y arrive plus.
J'entends pas les variations entre les trois.
Mais je voulais pas rentrer dans ce clip.
Je pense que la première, elle était bien.
Ouais, la première, elle était pas mal.
Elle est bonne imitatrice, Alix. Hein,
ouais, ouais, j'ai une oreille, on me dit souvent ça. Bon, écoutez, je propose que ce soit l'heure des mini-kifs.
Allez.
Moi, j'enchaîne, voilà, je suis comme ça.
Non, mais pas le temps de niaiser.
Bah oui, attends, ça fait déjà 15 minutes qu'on enregistre. Moi, j'essaie de tenir un rythme. Du coup, les mini-kifs, on a un jingle. C'est parti.
Les mini-kifs. C'est l'heure des mini-kifs.
Waouh! Wow. Merci!
Trop mime!
Trop sympa! Eh bien, nous commençons tout de suite les mini-kifs avec. Kalindi.
Bah non.
Après, c'est pas le bon ordre, c'est ça?
Non, mais déjà qu'on n'est pas assis là où on doit être assis, si je commence, c'est non, vraiment.
Bon, on commence avec. Dorothée.
Ah bon, ça arrive ce genre?
Non, mais Kalindi a des opinions sur qui s'assoit où et dans quel sens on tourne. Et après, voilà. Elle est perturbée si on va pas dans le bon sens.
Ah non, je peux pas.
D'accord. Ça va si je commence?
Ah oui, très bien.
Ok, d'accord. Et ben, mon mini-kiff, c'est le dernier EP de Tessa ou Tessae. Elle-même laisse la liberté aux gens de le prononcer comme ils veulent. Donc, ça
c'est
super.
Comme moi avec mon nom de famille. Genre, ils disent Egel ou Egel ou. Ah, je sais pas, faites comme vous voulez.
C'est vrai, mais moi non plus, je sais pas. Tu sais que je n'appelle jamais Mimi autrement que Mimi parce que.
Alors, normalement, on dit Egel. Parce que ça vient de l'allemand et qu'en allemand, on dit Egel. Mais bon, en même temps, on va pas faire un H aspiré non plus, donc on s'en fout. Egel ou Egel, ça marche. Les deux marchent. Voilà.
Moi, des fois, mes profs, ils m'appelaient Bitchy alors que je m'appelle Bieshi.
Oh en même temps, Dorothée Bitchy, j'espère Bitchy. Que ça va être ton nom de scène assez vite dans la vie, hein, parce que c'est génial.
Mais non, mais on dit, avec ma sœur, on dit souvent it's Bitchy Bitch, mais comme it's Britney Bitch. Mais
Bitchy Bitch.
Oui, voilà. Mais bref, toujours un truc un peu chelou à la rentrée, les gens qui essaient de prononcer ton nom de famille. Moi, c'est Bieshi, voilà.
Donc... Moi, un jour, il y a un prof
qui l'a dit.
Déjà, on a eu une phrase.
Moi, genre, mon prof, il a dit « Alix Martineau », j'ai levé la main. Il fait « Alix Martineau », j'ai levé la main. Il fait « Ah, bah, c'est vous ?» Bah, ouais.
Non, mais peut-être que, tu sais, comme Alix, c'est un prénom mixte.
Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a fait « Je pensais que vous étiez un garçon. »
Je fais « Bah, non. »
Voilà. Et bah, super. Non, mais belle répartie, bravo.
Voilà, ouais. C'est tout.
Super.
C'est bon, donc Tessae.
Tessae, qu'on a eu en session chez Mademoiselle, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube dédiée aux sessions acoustiques Mademoiselle Musique ou sur notre IGTV, qui est, à l'époque, elle avait 18 ans, maintenant elle en a 19, donc toute jeune, marseillaise, stylée. Elle est tellement stylée. En fait, elle était venue, j'avais rencontré sa maquilleuse qui faisait partie des nanas de Paname à un moment et tout. Enfin, elle a une direction artistique qui est géniale. Et donc c'est une musicienne, elle compose beaucoup, vraiment, enfin genre c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle compose. Et elle était venue faire une session acoustique de son titre Bling, qui avait pas mal marché sur TikTok pendant le confinement. Et c'est comme ça que elle est passée très vite de j'ai ma petite base de followers et puis je fais de la musique et c'est cool. À bon bah à partir de maintenant on va sortir des albums. Et ce qui est très cool je trouve.
Ça va vite avec TikTok.
Ouais, mais je trouve ça trop bien. Et du coup, elle était venue faire Bling. Et donc, elle est venue faire Bling. Elle est venue interpréter Bling. C'est peut-être plus logique comme phrase. Avec vraiment un style de ouf, quoi. Elle avait des macarons sur la tête. Elle avait un make-up genre rose pétant, hyper étiré et tout. C'était magnifique. Et en plus de ça, sa chanson était vraiment très cool. Et moi, c'est toujours un moment assez privilégié de pouvoir faire une session acoustique parce que souvent, tu découvres... Alors en plus, vu que c'est pas moi, vu que ça fait genre 2 ans, 3 ans que c'est plus moi qui choisis, à un moment c'était le cas, mais qui choisit qui est-ce qui vient en session, la plupart du temps, bah juste on dit « viens faire une session », moi je viens et je fais la technique. Du coup, souvent, je connais pas les gens avant. Et du coup, c'est ce moment hyper privilégié où je me retrouve dans une pièce, des fois juste seule à seule, avec quelqu'un qui a incroyablement une quantité incroyable de talent et qui vient, qui fait son petit morceau et qui fait une version exprès pour que ce soit en acoustique. Et souvent, enfin, genre, je suis touchée ou j'ai des frissons ou des trucs parce que vraiment, c'est impressionnant, quoi. Et donc, elle a fait une version... donc, Bling, normalement, c'est un titre... enfin, littéralement, les paroles, il y a Bang Bang, tu vois. Et c'est très... enfin, c'est plus pop urbaine. Et plus... elle est un peu côté rap... Et, mais quand même pas mal dans la pop, et puis elle dit même que bon, elle s'en fout un peu des étiquettes, donc voilà. Mais, et du coup, là, elle nous a fait un piano voix de son titre, chanté et tout. Et donc, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, et là, elle a sorti un. Non, son premier EP c'était Printemps, et là, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, qui est très cool, dans lequel il y a le single qu'elle a sorti cet été qui s'appelle Salope, dans lequel elle parle de harcèlement de rue, mais d'une façon mais trop trop belle, et j'ai un peu envie de piquer sa coupe de cheveux dedans parce qu'elle a des mèches au niveau des oreilles, où d'un côté c'est rose et de l'autre c'est vert, et genre, je trouve que la mèche rose au-dessus de l'oreille c'est trop beau. Et bref. Elle écrit trop bien, ses titres sont chambés et en plus c'est le tout début de sa carrière, donc ça va être fou, je pense qu'elle va faire et qui elle va devenir en France, et je pense que ça va être un talent féminin trop trop cool à suivre, et elle me donne un peu genre c'est un peu genre Suzanne de, mais de Marseille, genre
ah oui ok d'accord, tu vois,
et voilà, ça y est, son EP
trop bien
été du coup, qui est, je trouve vraiment à écouter, et de temps en temps j'entends Cassou qui passe et qui chantonne des chansons, ça me fait plaisir, et voilà,
trop
petit,
cool,
petit coup de cœur musical,
trop bien, donc elle a déjà full abo et tout, j'imagine.
Bah elle commence, ouais, mais je, enfin elle a, je, j'ai pas ses stats dans la tête,
j'ai pas les insights,
j'ai pas
ses
chiffres,
mais t'es pas son manager, j'ai pas compris.
J'ai pas ses stats dans la tête, mais ouais, enfin, elle a. Je pense que les gens commencent à connaître son nom. Je sais pas si tout le monde est encore allé vraiment chercher. Enfin, les trucs de quand t'as une personne qui a fait un bon single, ben en général, tu connais à peu près le nom, mais t'as pas en tête les titres des albums et tout. Mais je pense qu'elle a une communauté assez jeune et elle parle beaucoup de d'acceptation de soi, de ben elle a été victime de harcèlement scolaire, elle a eu une phobie sociale, elle parle de ses potes, elle parle de ses relations et tout. Et je pense que dans la communauté genre lycée, tu vois, dans les âges fin collège, début lycée et tout, je pense qu'elle doit toucher beaucoup de monde.
Trop trop bien.
Voilà.
Bah en tout cas, vous aurez les liens de sa session acoustique dans les notes du podcast et bah allez la suivre sur Instagram, sur
oui.
TikTok, sur.
Elle est stylée, putain.
Elle est trop stylée, voilà.
D'accord, Doro.
Merci beaucoup,
merci
Doro,
beaucoup
pour ce mini kiff. Mimi, c'est quoi ton mini-kiff ?
Alors, moi, c'est un mini-kiff un peu en l'honneur de Dorothée qui est là avec moi, car c'est un mini-kiff venu de l'Alsace, qui est notre région natale à toutes les deux.
On adore.
Même si moi, en vrai, je suis un peu une Alsacienne à arnaque, puisque je suis partie de l'Alsace quand j'avais un an, enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu là-bas, mais j'y ai fait tous mes Noëls pendant 22 ans, donc au final, je connais quand même le coin, quoi. J'ai encore de la famille là-bas. Et j'étais trop contente parce que samedi... Contexte, j'étais à Lidl, donc déjà c'était génial.
Génial.
Je faisais mes courses
trop
de la semaine, donc en plus acheter tous les trucs à manger.
Miam.
Et il y avait, en fait à Lidl ils ont des trucs régionaux ou de certains pays et ça change tout le temps, donc tu sais jamais trop ce qu'il va y avoir. Et là pour la première fois depuis si longtemps, il y avait des spätzle.
Les spätzle, c'est ma passion.
Qu'est-ce que c'est? Moi je sais
c'est
pas du tout.
C'est des pâtes fraîches alsaciennes qui se vendent, ça se prépare comme des gnocchis à poêler, donc il suffit vraiment de les faire revenir dans du beurre. Et ça se vend genre par 500 grammes. Et ça, c'est dur d'en trouver à Paris parce que je pense, je sais pas, c'est pas assez connu. Tu vois, les spätzle, il n'y a pas encore eu de renaissance
parler,
des spätzle. Ouais. Et c'est juste, je sais pas pourquoi j'aime autant. Peut-être parce que j'en mange pas assez souvent. Mais c'est trop bon. C'est hyper réconfortant. C'est super facile à faire en plus.
Mais du coup, ça ressemble à quoi? À des gnocchis ou à des pâtes?
Ça ressemble à des petites pâtes fraîches. Comment dire? Ça a pas vraiment de forme.
Ouais.
C'est
ouais. Des zigouigouis en fait.
Ouais, des zigouigouis de pâte aux œufs. Tu sais, c'est des bonnes pâtes aux œufs qui sentent bon les œufs. Et tu les fais revenir dans du beurre, sel, poivre, t'es content. T'as pas besoin de mettre une sauce et tout, tu peux, mais c'est vraiment bah, comme les gnocchis quoi, c'est bon tout seul.
Y a pas
et c'est deux fois, deux à trois fois plus petit qu'un gnocchi. Donc tu peux en faire plein et en manger plein. Et c'est trop bien. Et du coup, oui.
Y a pas forcément d'œufs dans les spécialités.
Ah bon? Moi, y a toujours marqué pâte aux œufs dessus quand j'en achète. Mais je sais que ça se fait aussi sec. Mais du coup, c'est que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Genre vraiment, tu les fais cuire comme des pâtes dans de l'eau et tout. Mais en même temps, c'est comme les gnocchis, quoi. Les gnocchis qu'il faut faire bouillir, je suis là. Bah après, c'est juste.
Mais après,
fade.
Tu les fais revenir. Du coup, c'est juste pour les faire cuire. Enfin, après, tu peux t'arrêter là si t'as la flemme, mais tout l'intérêt, c'est de.
Ouais, mais sur le paquet, il y a juste marqué faire bouillir. Et du coup, moi, j'ai fait bouillir et j'ai pas fait l'étape d'après. Bref. Du coup, il y avait des spätzle à Lidl. J'étais ravie. Je n'ai aucun self-control et il y en a jamais, donc j'en ai acheté 5 ou 6 paquets, je crois. Ça se garde un peu, tu vois. Donc j'étais là, de toute façon, je vais en manger énormément. Et j'en ai déjà mangé 3 fois, donc ça a marché. Et du coup, j'avais tous mes paquets de spätzle à la caisse sur le tapis. Et le mec devant moi, genre, il regardait le tapis. Il se retournait. Il regardait le tapis. Il se retournait. Puis il s'est retourné vers moi, il a dit « C'est quoi ça ? C'est bon ou pas ?» Genre, vraiment, genre...
tellement t'en achètes, je suis intriguée maintenant. Et du coup, j'étais là. Alors, c'est des pâtes fraîches alsaciennes, c'est très très bon, ça se fait revenir et tout. Genre, la meuf, c'est la community manager des Spätzlés en France. Et du coup, il était là. Oh, d'accord, je reviendrai pour voir s'ils en ont. J'ai dit, ah oui, faites vite, ça part vite. Hein. Je suis littéralement ma mère au marché, c'est très bien.
Mais t'es ambassadrice de. Je crois que c'est l'Alpenfest. Alpenfest, je crois que ça s'appelle la yes. semaine alsacienne à Lidl.
T'es ma passion, t'as de la bourse et tout, c'est trop bien. C'est Alsace, Alsace-Allemagne, Suisse-Allemande, tu vois. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de légumes, on n'est pas sûr. Voilà. Et beaucoup de charcutailles et de trucs à base de patates et de beurre, mais quel plaisir finalement, quelle belle région. Et du coup, j'étais trop contente de manger mes spätzle. J'ai envoyé un texto à Doro pour l'informer que la propagande alsacienne se déroule bien dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai envoyé un texto à mon papa pour lui dire que j'avais acheté plein de spätzle. J'ai FaceTimé ma mère et je lui en ai parlé. Enfin, vraiment, c'est une joie totale dans ma vie de trouver un aliment que je trouve jamais. Et en plus de pouvoir en acheter plein. Et ça m'avait fait pareil, petit conseil resto. En bas de chez moi, à Paris, il y en a aussi un. Donc il y en a un à Père-Lachaise, là où j'habite. Et il y en a un maintenant vers la rue Montorgueil. Il y a un truc qui s'appelle Yema, Y-E-2-M-A, qui est une cantine marocaine tenue par des Marocains. Et du coup, ils font genre des couscous et des genres de wrap avec des crêpes marocaines dans lesquelles ils mettent des kefta ou du méchoui ou des trucs comme ça. Il y a aussi des options végé. Et après, ils la roulent et du coup, ça te fait, ils appellent ça un casse-dalle, ça te fait un truc à manger, à emporter. Et c'est trop bien parce que la cuisine du Maghreb, elle est vraiment différente selon les pays. Et même, il y a des spécificités après dans les pays, normal, bon, des trucs régionaux. Et du coup, la cuisine marocaine, comme fait ma mamie, je la trouve rarement dans les restos parce que pour peu que, en fait, c'est. Genre le couscous avec des merguez pour moi c'est une hérésie quoi, vraiment on fait pas ça dans ma famille, on fait pas au Maroc. Ouais, on met plutôt genre de l'agneau et du mouton.
Et du coup les merguez ça vient d'où?
On met pas de poulet au Maroc, c'est plutôt algérien le poulet merguez.
OK.
Et oui. Et du coup, au moins quand je vais à Yema, je sais que ce que je vais manger aura exactement le goût de ce que fait ma maman et ma mamie. Et du coup, c'est trop bien. Genre des fois je passe devant et je ralentis un peu et je respire et je fais ça sent le pain et le citron confit comme chez ma mamie et ça me fait plaisir. Car pour rappel, je devais retourner au Maroc pour la première fois depuis des années en mars 2020. Il y a donc eu le confinement. Voilà.
Je n'y ai pas été. Moi aussi, je vais y aller.
Et oui.
On devait se croiser. Et puis, non.
Et ben voilà. Non. Je t'aurais invité à manger un couscous chez ma chez
ma mère. J'aurais beaucoup aimé. Surtout que moi, je suis jamais allée au Maroc. Ouais, t'as vu.
Mais tu viens quand tu veux, Khalidi. Elles t'adoreront. Faudra peut-être mettre un peu plus de vêtements. Mais elles t'adoreront.
Quoi, tu parles?
C'est pas moi qui te slut shame, hein. C'est vraiment je prévois le potentiel slut shaming familial.
Y'a pas de soucis.
C'est quoi, je te prêterai Angel là-bas? Tu seras très bien.
Nickel! J'en ai eu porté longtemps!
Bah, ça ne m'étonne pas.
Mais j'ai passé 10 ans au Maroc tous les étés chez mon amie Louisiane, dont les parents étaient expatriés, donc j'ai pratiqué l'Angel là-bas. Mais tu sais que. Alors, je sais que c'est alsacien, mais je me demande si c'est pas allemand. Parce qu'en allemand, ils mangent les spätzle, du coup. Toi, tu dis spätzle, c'est ça?
Bah, en alsacien, on dit spätzle. Mon père, il dit spätzle ou spätzle. Ouais, ça dépend.
Et nous, comme si j'étais allemande, en Allemagne, ils disent spätzle. Et en fait, les spätzle, ils en font beaucoup aussi, au même titre qu'ils font les knödel dont je t'avais parlé une fois, tu sais. C'est ces espèces de boules d'une espèce de semoule qui accompagnent les demi. Ouais, c'est ça, jarret de cochon. J'ai le nom en allemand, je vous le dis si vous voulez, c'est Halbschweinhaxe.
Parle-moi en allemand, Kalindi.
C'est ce que me disait mon ex tout le temps. Et donc, ils font rôtir ce jarret de cochon en fait, dans une sauce brune à la bière, très salée. Ils accompagnent le knödel sur lequel ils mettent un peu de gruyère avec le fond de sauce à la bière asse. Là, et
knödel, t'imagines une boulette de viande mais faite de gluten.
Exactement.
Qui aspire toute la sauce.
C'est exactement ça.
C'est un plaisir.
Et quand tu la mâches, t'as le jus du porc qui coule dans ta gorge.
Ouais.
Enfin, c'est un délire, quoi.
J'ai faim maintenant.
Moi aussi.
Moi aussi, mais je sais même pas de quoi, parce que j'arrive pas à savoir de quoi vous parlez, quoi.
Et ben d'ailleurs, du coup, je vais te conseiller un truc. À Paris, il y a un de mes restos préférés qui fait pas dans la fine gastronomie, hein, à pas se le cacher. Ça s'appelle Kitz. Et il y en a deux. Il y en a un à côté de chez moi, à Paris 18. En plus, ils ont un Biergarten à l'arrière.
Ma passion, les Biergarten.
Alors, c'est un petit Biergarten. Hein,
est-ce que c'est un jardin Paris, à bière?
Tout oui, à fait.
Les bières poussent dans les arbres et tu peux les cueillir quand elles sont mûres.
Tout à fait.
Il y a une forme de doute.
Plus une forme.
Franchement, pendant un quart de seconde, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens mettent ça en scène?
Non.
Ce serait génial.
Oui. Mais bon, t'aurais des bières tièdes toute la vie, quoi.
Ouais, c'est clair.
Les arbres,
je viens de penser à un
froid.
Concept où en fait t'as des faux arbres au-dessus duquel t'as des gens qui travaillent genre en hauteur, tu vois, et en fait ils te descendent les bières par un monte-charge là, et en fait t'ouvres et c'est comme si t'ouvrais par l'arbre de l'arbre et c'est une branche qui sort et tu prends ta bière.
Rien compris.
Tu peux juste genre prendre un frigo et le maquiller en arbre. Pourquoi t'es obligé de mettre des gens dessus?
C'était plus cinématique, d'accord.
Les gars, ils ont des poulies et tout, tu vois.
Je sais pas, je trouvais ça plus médiéval.
Et ouais, et donc ça s'appelle Kids, attends, donc 18e, 19e, et en fait là-bas ils font toutes les spécialités allemandes, donc t'as des tonnes de saucisses différentes, et t'as un gros plat très roboratif de Spätzle.
Est-ce que c'est un Spiegermüller?
Est-ce que c'est un Spiegermüller?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'un Spiegermüller?
Un Spiegermüller, c'est un gratin de Spätzle avec des dés de jambon et beaucoup de fromage.
Ah non, c'est pas ça.
T'es
ça a l'air, l'air d'être la meilleure chose en revanche.
Oui.
En revanche, ça a vraiment l'air d'être la meilleure chose.
Je te donnerai la recette.
J'imagine que c'est des spätzle avec
du jambon.
C'est peut-être pas complexe. C'est peut-être comme la giflette. Il n'y a pas vraiment de piège.
Ouais. C'est, t'imagines le gratin de pâtes, mais version encore mille fois plus réconfortant. Genre, c'est un plaisir.
Franchement, ça tente pas mal.
C'est
hein.
Trop bien. C'est genre ma sœur, elle demande ça à tous ses anniversaires de ma grand-mère.
Un gros bébé.
Tu peux me faire un Spiegermüller.
C'est le meilleur nom en plus.
Grave.
Non, il y a pas ça. Il est qui aux champignons, qui aux courgettes. Enfin, tu vois, parfois, ça dépend un peu de ce qu'ils ont. Mais c'est vraiment très copieux. C'est bien salé. Enfin, c'est divin. Donc, le Kids, Paris 18, Paris 19.
Je note.
Quand il y aura plus chez Lidl.
Oui bah, parce c'est-à-dire que... là, immédiatement, il y en a déjà plus, hein, je pense.
Mais c'est ça. En fait, le problème de chez Lidl, comme vous le savez, j'en suis l'experte. Le problème de chez Lidl, c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc, si vous aimez quelque chose, par exemple, moi, j'adorais leur jus de tomate bio. Je ne l'ai pas acheté assez souvent, à mon grand regret.
Ah. Ils ont enlevé la référence. Si j'en vois, je peux t'en acheter.
Si t'en vois, tu peux m'en acheter. Et du coup, Lidl refera ses stocks de jus de tomate bio. Parce qu'un jour, je suis arrivée, je fais, il est où le jus de tomate bio? Ils m'ont dit, bah non, il est déréférencé. Et j'étais là, quoi?
Cœur brisé, quoi.
Cœur brisé de fou.
Ouais, je comprends.
Voilà. Donc, achetez vraiment ce que vous aimez chez Lidl. Achetez-le en plusieurs fois. Voilà. Bah, merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff plein d'enthousiasme. Et Camille, de l'eau dans ma bouche.
Camille? Ah, Camille.
Oui.
Camille. Et bah, du coup, c'est à toi, Kalindi. C'est
oui.
Quoi ton mini-kiff?
Alors, moi, je voudrais juste dire avant mon mini-kiff... parce que je parlais de chat la dernière fois dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Entre temps, j'ai adopté un chat hier.
Et c'est même pas lui ton kiff?
Non, c'est pas lui mon kiff.
Tu le connais pas encore assez.
Parce que ouais, je le connais pas encore assez. Mais c'est pour, juste pour faire suivre aux gens, j'ai adopté Maréchal Guntiflux qui est arrivé chez moi hier soir. Il est trop mince.
Il est trop chou.
J'en abreuverai les réseaux sociaux très rapidement. Et les gens vont m'acheter des vêtements, donc vous inquiétez pas, je ne lui mettrai pas tout le temps, c'est juste pour faire des photos, c'est bon.
Il faut que tu précises des vêtements pour chat. Donc vraiment, t'as juste dit les gens vont m'acheter des vêtements. Ce qui est une phrase qui, dans ta vie, a du sens, tu vois. Genre, pour fêter ça, les gens vont m'acheter des fringues. Peut-être, je ne sais pas, t'es bizarre.
Non. Mais je vais faire une baby shower où les gens m'apporteront des cadeaux pour le chat.
Tu vas faire un gender reveal?
Un quoi?
Un gender reveal?
Ah non, parce qu'en fait, j'ai décidé qu'il était non-genré.
C'est vrai que Maréchal, c'est non-genré. Hein.
Non, mais en fait. Le genre au féminin.
En fait, le truc,
alors
c'est que j'arrête pas de lui dire elle alors que c'est un petit mec, tu vois. Enfin, je veux dire, il a vraiment l'appareil et tout. Mais dans ma tête, c'est trop un mec, tu vois. Oui, il va falloir le faire stériliser. Une meuf?
T'as dit, dans ma tête, c'est trop un mec.
Oh là là, tu vois, j'y arrive pas. Donc, suivez mes réseaux, abonnez-vous à Cal Ramphol parce que vous allez voir des photos de Maréchal Guntiflux en voiture, voilà. Sans transition aucune, mon mini-kiff, c'est un kiff qui concerne aussi ma vieille fille, Alix Martineau, puisque nous avons commencé ensemble, désolé Mimi pour la redite.
Pas de soucis, c'est un plaisir.
Un cours de théâtre.
Vous en avez déjà entendu parler dans l'LMK, puisqu'on avait parlé de notre synchronie, où on s'était inscrite en même temps, voilà. Et donc, notre premier cours, c'était lundi.
Tout à fait. C'était lundi 14 septembre et c'était un petit régal.
Ouais, c'est clair.
Et ce qui était un régal, au-delà de la discipline qu'on a eu à pratiquer, c'était que, en fait, on est arrivé devant l'enceinte du bâtiment. Ça se dit? Ou c'est deux fois la même chose? L'enceinte du bâtiment?
Oui,
on est arrivé devant l'enceinte du bâtiment et en fait, on avait toutes les deux un peu cette appréhension des débuts. Et en fait, elle et moi, on s'est regardé, on s'est dit, en fait, c'était quand la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois? Mais.
Non, mais même pas au-delà de la première fois, tu vois, c'est la première... Enfin,
rentrée, quoi.
Une rentrée, tu vois.
Ouais, parce qu'en fait, moi, la dernière fois que je suis rentrée quelque part, c'était chez Mademoiselle et ça fait plus de 3 ans, tu vois. Mais en fait, 3 ans sans une rentrée à fréquenter de nouvelles personnes, etc., bah ça fait long. Et en fait, t'oublies cette espèce d'adrénaline que t'as quand tu sais que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, qu'il faut que tu te fasses des potes, potentiellement que tu dragues le prof. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses.
J'aime bien quand même se tourner vers Alix au moment de dire ça. Alors que si je peux me permettre, dans ma tête, c'est plutôt un Kalindi move de draguer le prof.
Oh, tu serais étonnée. Donc je dis ça alors que ça fait aucun move. Mais anyway, et donc on a commencé le théâtre et c'était chouette. Alors après c'était un cours de reprise. Moi j'en ai fait 10 ans quand j'étais plus jeune. Alix aussi, 10 ans c'est ça?
Oh, moi j'en ai fait oui plus de 10 ans ouais. J'en ai fait bien 13-14 ans.
Et t'es jalouse.
T'as dit un chiffre plus gros qu'elle, donc t'as gagné.
Et du coup, bah, donc c'était, en fait, c'est cool aussi de revenir à une sensation que tu connaissais déjà, mais que t'as perdu à cause du temps. Et en fait, je trouve que t'as tout de suite cette sensation, même de la salle de théâtre, où en fait, tu dois te ridiculiser. Voilà, c'est quand même le concept même. Hein, c'est voilà, vous allez faire le monstre. Enfin, ouais, c'est quand même ridicule du fion, quoi. Et il faut tout donner, sinon c'est encore plus ridicule que de faire les choses à moitié. Du coup, j'aime bien. Et j'ai eu l'impression de reconnecter avec un truc de mon enfance, ce qui m'a fait vachement de bien. Et en plus, moi, en ce moment, je suis une thérapie qui m'oblige à me reconnecter à vachement de ce que j'ai vécu dans ma petite enfance et même dans mon adolescence. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois maintenant que je suis en thérapie. Et avec le théâtre, en plus, j'ai vraiment l'impression de réembrasser la personne que je suis intrinsèquement et les désirs de cette personne-là que j'avais oublié avec le temps, avec les soucis, avec plein de choses. Et du coup, ce moment de reconquête, c'est peut-être plus ça mon mini-kiff, quoi. C'est la reconquête.
Édouard Baird.
C'est peut-être plus ça, c'est la reconquête de moi-même via un art finalement aussi pourtant populaire que le théâtre.
Je l'adore. Mais non, mais c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec toi, ça m'a fait revenir plein de vieilles émotions. En plus, moi je connaissais à peu près tous les exercices qu'ils nous ont fait faire, puisque c'est des exercices assez classiques du théâtre. Enfin, tu commences le théâtre, tu vois, tu fais « Allez, on dit tous nos prénoms !» Et puis tu le cries, et puis voilà. Et en fait, tu vois, j'étais là « Ah putain, c'est vrai que ça me faisait marrer, ça, quand j'étais petite. » Et ça m'a rappelé aussi mes troupes de théâtre et enfin tous les potes que je me suis fait là-bas. Et j'étais trop contente parce qu'après le cours, on allait boire des verres avec des gens qu'on connaissait pas. Et puis tout de suite, tu vois, ça te fait une porte d'entrée avec des gens que t'aurais jamais rencontrés sinon. Et ouais, je trouve ça trop trop bien, quoi.
Ouais, c'est rafraîchissant de ouf, en fait. C'est rafraîchissant, et puis...
Mais j'étais quand même contente d'être avec toi, ma vieille mère, ouais, parce qu'on était... Tu vois, on était en mode... On connaît quelqu'un, mais on n'est pas non plus restés que toutes les deux.
Ouais, c'était bien, on a eu le parfait équilibre, on s'est pas mis à côté. Ouais. Enfin, du coup, les gens étaient étonnés quand on a dit qu'on se connaissait à la fin, mais ça s'est fait naturellement, on s'est pas dit « Alors, on fait ça, parce que sinon, oui, les autres, machin. » Et vraiment, juste, c'était trop bien. Et c'est marrant de pratiquer une discipline que t'as pratiquée petit, maintenant que t'es adulte, parce que tu le regardes pas avec le même regard, c'est sûr. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que...
Mais il y a un spectacle à la fin de l'année, venez tous, LM Crado.
Ouais, venez tous, franchement.
Pour ceux qui ne sont pas à Paris, je promets solennellement de faire des stories sur le compte de Laisse-moi kiffer pendant le pestac de Kalindi et de Alix.
En plus, mais venez vraiment, vraiment venez, parce qu'en fait, on a une salle de 350 personnes à...
500
à 500, oui. 500 personnes à remplir.
S'il n'y a pas de restriction à cause du Covid.
S'il n'y a pas de restriction à cause du Covid. Mais en fait, ça fait beaucoup. Et avec nos amis, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir.
Avec tous les cas que vous avez sur Instagram, là, c'est bon.
Ouais.
Les gens vont venir.
Tous les cas. Mais moi, j'ai pas dit
les cas.
Moi, j'ai entendu l'autre. J'ai entendu avec tous les cas, là.
C'était pas clair. Je parlais des cas comme des milliers d'abonnés. Voilà.
Non, vraiment trop cool. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir forcément une guéguerre à un moment donné, puisque voilà, va y avoir des rôles à attribuer.
Bah, c'est le prof qui décide, donc il y aura pas de guéguerre.
Non, mais voilà.
Mais il y aura des ressentis. Regarde Kalindi, genre, elle regarde la pêche.
Non, mais Kalindi, elle est persuadée qu'elle va m'en vouloir si j'ai un rôle meilleur qu'elle.
Mais... c'est sûr.
Parce que c'est vrai. Tu la connais depuis longtemps quand même.
Non, je pense qu'elle m'en voudra pas, mais parce que Kalindi, elle est bienveillante avec moi.
Je fais semblant.
Elle aura un petit peu le seum, mais elle m'en voudra jamais.
Mais non, mais surtout, bon, je vous le rappelle au cas où je vous l'aurais jamais raconté, mais ma première prestation sur scène, c'était quand même dans Delphine et Marinette. J'avais 6 ans. Et en fait, à l'époque, j'étais très timide, donc personne n'avait remarqué que j'étais pas trop mauvaise au théâtre. Et du coup, on avait donné à mes amis Louisanne et Élise, Louisanne, bien sûr, Roy, et Élise Piecoq, pour ceux qui sauraient pas du coup. Elles avaient joué les rôles de Delphine et Marinette, des œuvres Delphine et Marinette. Et moi,
j'ai aucune référence. Ouais,
Delphine et Marinette.
Non.
Mais c'est deux mômes qui sont avec plein de lapins. Et
Tom
tout,
Tom et Nana, je connais. Delphine et Marinette, j'ai pas.
Bah vois, c'est plus vieux. C'est deux gamines qui sont avec plein de poules, voilà. Et globalement.
Et en parlant de poules.
Et en parent pool, donc moi j'avais ni Delphine ni Marinette, j'étais en mode deck de ouf, et on m'avait filé un vieux rôle du coq, j'avais genre 3 répliques, c'était de la merde, et j'étais trop deck, sauf que ni une ni deux, ma mère m'a cousu un gant mappa sur un bonnet de bain de piscine là, donc j'avais mon gant mappa, je suis montée sur scène, et au moment du spectacle je me suis transfigurée, je suis devenue un coq, littéralement, et j'ai tellement fait rire que les gens sont allés voir mes parents après pour leur dire mais il faut absolument qu'elle fasse du théâtre cette petite, et j'étais là nique ta mère la prof de théâtre. Tu vois, parce que tu m'as donné un rôle de merde, et ben c'était moi la star, connasse.
C'est exactement voilà. Ce qu'il a dit le prof de théâtre. Quand vous avez un rôle qui vous satisfait pas entièrement, et ben on peut faire en sorte que vous transcendiez quand même la pièce à travers ce rôle, et qu'il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs.
Voilà.
Wow.
C'est là-dessus qu'on conclura mon mini-kiff.
Merci beaucoup,
Camille. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, n'ayez pas peur. Enfin, moi, j'ai pas fait pendant des années parce que j'avais peur de recommencer un truc. Mais en fait, le plus dur, c'est de s'inscrire. Après, une fois qu'on y est allé une fois, c'est bon, quoi. Donc, et l'épanouissement personnel, je pense, enfin, attention, c'est pas encore, ça fait qu'un cours, mais je pense qu'il va être tel que franchement, on évite de rembourser de la peur. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez pigé, quoi.
Voilà. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup, Kalindi.
De rien.
Pour ce mini-kiff. Mon mini-kiff est une série.
Wow. Ah !
C'est une série. Un peu nul, très
vous
vieille.
Vous racontez bien, chef.
Très vieille et en fait, j'ai recommencé à la regarder parce que ma sœur m'a rendu visite. Ma sœur qui a 11 ans, Faustine Martineau, elle a 11 ans et donc elle est venue me rendre visite puisque c'était mon cadeau pour ses 11 ans de venir passer un week-end à Paris.
Trop
je lui ai acheté des choses, des fringues, elle se les a achetées elle-même, mais voilà, je l'ai emmenée à la fête foraine, enfin voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans? Bon, déjà, elle voulait regarder des films d'horreur, donc je lui ai montré des films d'horreur. Mais je me suis dit, une série, tu vois, que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans, et j'ai repêché Gilmore Girls. Et là, vraiment, Gilmore Girls, c'est vraiment la série pour les gens qui ont 11 ans. Et en ce moment, en fait, elle est partie et j'ai continué la série.
C'était le prétexte, mais au final, t'avais juste envie de regarder Gilmore Girls.
Et en fait, je suis à la saison 3 et je suis là, waouh. Donc en fait, pour l'histoire, c'est une mère et sa fille qui ont 16 ans d'écart, puisque la mère est tombée enceinte à l'adolescence, au moment des faits. Et en fait, elles sont donc très proches, très fusionnelles, elles sont meilleures potes en même temps que d'être mère et fille. Et moi, c'est un truc que vraiment, j'ai pas du tout cette relation-là avec mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est un mode de vie complètement différent. En plus, elles vivent en Amérique, donc voilà. Et dans une toute petite ville, alors que moi, j'habitais dans l'énorme métropole qu'est Nantes. donc, vraiment très éloignée
de New York de France, finalement.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, cette série, donc il se passe rien environ, à part des histoires, l'amoureuse de machin, truc. Puis en plus, c'est Rory, donc le personnage principal, qui est la fille de Lorelai, est une jeune fille très studieuse, très sage, très, on dirait un peu moi. Et enfin, non, mais je sais pas, on est tellement éloignés et parfois je la déteste et parfois je suis là. Ça a l'air trop bien cette vie où tu te fais chier en permanence, tu vois. Et où il se passe rien à part
faire comme devoir ce soir.
Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais du coup, je sais pas, c'est devenu un truc hyper réconfortant où. C'est une vie que j'ai vraiment pas vécue et que je suis pas sûre d'avoir envie de vivre, mais que, je sais pas, qui est réconfortante, tu vois.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'enjeu énorme, il n'y a pas de drame géopolitique.
Ouais,
c'est juste, des fois, elle est in love de machin, et machin n'est pas dispo, et sa daronne, elle lui dit, c'est pas grave, on va prendre du popcorn et regarder un film. Et
ouais,
là,
mais c'est étonnant.
Une intrigue de dire, on va prendre du popcorn, j'étais là, attends. Alors, Lorelai est un peu rock'n'roll dans mon souvenir, mais pas à ce point-là, quand même.
Ouais, sa mère est un peu rock'n'roll, mais en fait, ce qui est drôle, c'est donc les répliques qu'elles ont, puisqu'elles ont des dialogues hyper écrits et hyper cinglants et rapides. Donc, c'est vraiment des échanges du ping-pong, quoi. Et au début, ma sœur, quand je lui ai mis ça en anglais, elle me fait. Donc, elle a vraiment fait ça. Donc, j'ai remis en français. Et déjà, faut avoir vachement de second degré, tu vois. Donc, je lui ai dit ça, c'est du second degré. Ah, d'accord, ok. Enfin, bon, voilà. Non, mais.
T'es une bonne grande sœur, Alex Martineau. Ouais.
Non mais je sais pas, ça m'a. En fait, c'est très bizarre parce que même j'arrive pas à m'attacher au personnage, genre j'en aime aucun. Vraiment là, je sais pas, elle m'insupporte la plupart du temps, mais je suis là, mais ça marche, je sais pas pourquoi.
En même temps, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Pretty Little Liars alors que j'aimais vraiment personne quoi.
Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Ces séries.
On va faire un article là-dessus. Hein.
sur Gilmore Girls.
Non, mais sur pourquoi on continue à regarder des séries dont on aime aucun fucking personnage, tu vois, vraiment.
Ouais.
Parce que j'ai même pas l'impression que vous les détestez, c'est juste que vous êtes indifférente, quoi.
Ouais, ouais, c'est l'indifférence pure, quoi. Parce que, en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier ou. Et c'est vraiment étrange comme kiff où j'adore et en même temps, je suis là, c'est pas grave si ça s'arrête demain, quoi. C'est comme la vie, finalement.
Mais peut-être que c'est ça, tu vois. C'est une métaphore.
Non, mais elle vient de nous annoncer son suicide en direct et tout le monde s'en fout, genre.
Mais non !
Elle est sereine avec l'éphémérité de la vie.
Exactement, c'est ça. La vie, c'est bien. Et tant pis si ça s'arrête demain. Mais c'est
YOLO,
pas du suicide.
Finalement. Alors
c'est
moi, on vient d'entrer dans une stratosphère là, que je suis incapable de comprendre, genre.
Mais c'est le YOLO, quoi.
Oui, oui, non, mais moi, je comprends pas ce truc-là. Moi, je suis très... Tu vois ? Je suis terrorisée par la mort chaque seconde que Dieu fait, donc je me comprends pas ça. Ouais.
Bah regarde Gilmore Girls.
Ouais, bah je crois que je vais faire ça. Je pense que ça va résoudre tous mes problèmes avec la mort.
Il y a moyen.
Je pense aussi.
Tu vois, ta thérapie est bientôt finie. Hein.
Ah oui, c'est Si j'avais su qu'il fallait regarder Gilmore Girls, ça m'aurait coûté moins cher quand même. Hein.
En plus, c'est sur Netflix. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin des mini-kifs. Merci à tous. Merci. Et c'est l'heure des gros kifs.
Brah!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les gros kiffs, faites place aux gros kiffs.
Ah
wow,
trop merci bien. Valentin, merci beaucoup.
Et bien je sur cette blague.
Ben, c'est plus une blague là, c'est dans l'émission, code.
C'est un rituel.
C'est un rituel. Et bien on va recommencer les gros kiffs avec Mimi.
Okay. Mon gros kiff, incroyable. Mon gros kiff est un truc d'adulte que je pensais relativement peu posséder dans ma vie.
J'étais moi-même surprise quand tu me l'as annoncé.
Ah bah, toute la commu était surprise. Je vais teaser un truc. Je vais pas en dire beaucoup parce que sinon je vais me jinxer moi-même et ça va pas arriver. C'est ma philosophie du monde. Je suis pas superstitieuse mais je suis à peu près persuadée que si tu crois trop à un truc, il arrive pas. Car c'est la vie est une pute. Non, mais je sais pas, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis grave hypée pour des trucs, et au final, pour une couille random, ça se faisait pas, et j'étais là, putain, c'est parce que je me suis trop hypée, j'aurais dû être moins satisfaite, moins contente. Bref. Je travaille actuellement sur un projet en dehors de Mademoiselle qui devrait être cool. C'est un projet un petit peu au long terme, pour lequel il faut que je m'organise, et que je prenne de l'avance. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ma stratégie qui a marché pendant ces 28 ans de vie, qui est d'être une branleuse qui fait tout au dernier moment, mais qui a quand même deux neurones qui se touchent, du coup ça marche et c'est plutôt au niveau, donc c'est cool. Là, je suis obligée, je n'ai pas le choix. J'ai retourné le problème dans ma tête 45 fois, j'étais là, tu ne peux pas faire ça en last minute, c'est mathématiquement impossible. C'est comme si je vous disais, je vais courir un marathon, mais je m'entraînerai la veille, tu vois, genre pour la première fois, non, je vais pas y arriver. Donc bon, je me suis dit, d'accord, alors comment je vais faire pour m'organiser et tout ? J'avais dit, là, genre, par exemple, tel week-end, je sais que j'ai rien. Donc, je vais avancer dessus.
Bien sûr, tu ne fais rien.
Pas du tout. Je n'ai rien branlé. J'avais 2 semaines de vacances avec absolument aucun planning. J'ai pas ouvert mon ordi une seule fois, à part pour finir The
vacances.
Shield sur Prime Video. Oui, mais là, c'est un projet hors boulot, donc il faut bien que je le fasse pendant mon temps libre.
Ouais.
Car sinon, ça ne marche pas.
Ouais, sinon, c'est fou.
Donc bon bref, je suis arrivée début septembre en petit état de palpitation quand même, hein, en petit état de t'es pas sur la bonne pente et en fait si tu continues comme ça vu que t'as rien branlé de tout ton été sur ce projet.
Je t'ai jamais vu paniquer.
Il va falloir. C'est très privé hein, comme émotion chez moi, c'est vraiment un truc de. Je reste allongée dans mon lit en attendant la mort pendant 3 heures un dimanche et.
Tu
mon
regardes
chat,
Gilmore Girls.
Non, même pas. Il y a un niveau où quand j'arrête de regarder des trucs pour ne pas penser au fait que je panique, c'est que vraiment la panique est trop présente, tu vois. Donc vraiment, je suis juste allongée dans mon lit, comme ça. Il y a mon chat qui vient me renifler l'oreille. Je me dis, il est mignon quand même. Et après, je suis là, ah non, je panique toujours, ça ne marche pas. Bref. Donc je me suis dit, eh bien, puisque ma psy est en congé maternité et que du coup, je ne pouvais pas l'appeler au secours, je me suis dit, je vais trouver une solution, puisqu'apparemment, le reste du monde a trouvé une solution qui s'appelle avoir un planeur. Un outil, non pas un avion qui plane, un planeur en anglais, qui permet de planifier des activités et des moments de vie. Donc, j'ai demandé sur Twitter, ok, il me faut un truc qui est un peu mieux qu'un agenda, il me faut un truc de planeur, idéalement qui puisse exister en physique Et enfin, en gros, je prends les conseils de planeur physique et les conseils d'appli pour s'organiser, parce qu'en soi, là, j'ai Google Agenda et c'est environ tout. Et ça marche pas Google Agenda pour ça, quoi. Et en fait, j'ai mes trucs d'organisation, je les utilise sur mon ordi. Et dès que je les ai pas sous le nez, je les oublie totalement. Donc, il me fallait un truc que je puisse avoir aussi en physique. Et pourquoi pas, s'il y a des gens qui ont des idées d'appli, c'est cool, mais il me fallait surtout un planeur physique. Donc, j'ai demandé ça sur Twitter. La moitié des gens m'ont répondu Excel. Est-ce que j'ai une gueule à savoir utiliser Excel pour organiser ma vie? Non, je sais pas utiliser Excel du tout. Et vraiment, les gens étaient là, j'ai tout essayé, mais au final, on en revient, Excel, la base. Je suis là, non, je vais pas essayer de régler ma panique sur Excel, c'est impossible. Excel me fait paniquer, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me démerder toute seule avec Google, merci beaucoup les gens. Je cherchais toutes les listes BuzzFeed, New York Times, machin, de The Best Planners of the Year et tout machin. Et j'ai trouvé, je pense, celui qui me convient. Il est arrivé, il est très beau. C'est un planner d'une marque qui s'appelle Clever Fox. Donc déjà, il est joli. C'est un format bah, comme ton cahier là. C'est quoi? C'est du A5? Non, un peu plus grand quand même.
Ouais, si, ça doit être un peu plus grand que A5, ouais.
Ouais, voilà. Bref, c'est pas un A4, mais c'est pas beaucoup plus petit. C'est un truc quand même assez épais, assez joli, avec une couverture en simili-cuir avec une petite forme de renard dessus. Donc déjà, il est joli, on aime bien. Il y a un bidule pour accrocher ton stylo. Il y a 3 marque-pages différents, ce qui est très bien. Parce qu'il y a différentes sections, et du coup, tu peux marquer les pages des différentes sections. Et c'est un truc de gens de droite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un manuel. Le truc vient dans une boîte cartonnée, avec un couvercle, genre vraiment comme si tu faisais un unboxing d'iPhone, quoi. Et le premier truc que tu vois, c'est un manuel « How it works ». Je suis là, c'est un planner, enfin, les pages, il y a marqué quoi faire dedans, mais bon, j'ai regardé quand même. Et en fait, bon, il y a toute une partie. Moi, ce que je voulais pas acheter de planner ou de bullet journal ou de trucs comme ça, parce que petit 1, je ne suis pas créative de mes mains. Donc le bullet journal, il y a tout un côté, je vais faire du bullet ring, je vais faire du pochoir, du machin. Moi, je suis là, je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Donc pourquoi acheter un journal qui va juste être, enfin, autant prendre un cahier moche, c'est pour écrire des trucs moches dedans, quoi. Et bah, les planners, il y a toujours un côté dev perso, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. Et là, c'est pareil. Genre, les premières pages, c'est My Vision Board, où t'es censé coller des images de magazines qui ressemblent à ce que tu veux que ta vie ce soit. T'as genre I'm grateful for... Donc, il faut mettre genre... je suis vraiment très reconnaissante à la vie de ça. My ambitions. Et dans le, en plus, dans le manuel, tous les exemples, c'est genre, OK, il faut vous mettre des goals de trucs larges à atteindre cette année, et après on les séparera en mini-goal. Et c'est que des trucs genre apprendre à me lever à 5h du matin, aller à la salle, perdre 20 kilos. Moi je suis là, je peux juste régler un projet, frère, c'est tout. J'ai pas besoin du reste. Donc j'ai juste décidé que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie, et donc je n'ai pas rempli ces pages-là. Ce qui, je pense, avant m'aurait mis en situation d'échec, parce que je me serais dit, bah c'est bien la preuve que c'est pas pour moi, j'arrive pas à le remplir parce que vraiment ça me parle pas. Et là je me suis juste dit, bah en fait mon cerveau il marche pas comme ça, ça m'inspire pas du tout, c'est pas inspirational pour moi, donc juste je les ai pas remplis, voilà, on s'en fout. Et je suis juste allée au calendrier du mois, calendrier de la semaine, qui sont quand même bien découpés avec t'as des petits stickers, t'as des petits machins. Mon con de mec a immédiatement pris 3 stickers fêtes pour se les coller sur le visage et me dire c'est la fête, et après il s'est rendu compte que c'était les stickers qui allaient avec mon planeur tout neuf, et il les a recollés dans la planche parce qu'il s'en voulait de les avoir gâchés. Cette personne a 8 ans. Ah, je l'aime trop. Et donc il y a, ouais, il y a le planeur mensuel, après un planeur hebdo. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est non daté, enfin qui est vierge. Donc tu peux faire, enfin c'est pas un agenda genre semaine 1 de septembre 2020 et tout. Tu peux, c'est toi qui remplis les, ouais, le mois et la date et les dates, donc c'est cool. À chaque truc hebdo, t'as sur la page de gauche, donc vraiment la liste des jours, et où t'as quelques lignes pour écrire ta to-do du jour. Donc je peux m'en servir aussi au travail pour mes tâches quotidiennes, c'est cool. Et sur la colonne de droite, t'as plus des trucs genre t'as une partie bilan, où par exemple, si ton objectif de la semaine, bah, c'était de te lever à 5h du matin, tu peux noter, genre, me lever à 5h, j'ai réussi mardi et jeudi, j'ai pas fait lundi et mercredi, par exemple, pour avoir, je sais pas, pour suivre tes progrès, whatever. Je l'ai pas rempli, du coup, parce que ça ne marche pas. Tu peux remplir tes petits objectifs, ta liste de courses, enfin, voilà, t'as des petits trucs. Et à la fin, t'as des pages vierges, enfin, pas vierges, mais avec des points, qui apparemment, il y a un délire de bullet journal, genre, c'est pas des pages lignées.
Oui, c'est ça, ouais, les pages notes, quand même. Là...
Ouais, c'est des dots, je sais pas quoi. Donc, bon, bah moi j'écris dessus de façon normale, voilà. C'est juste, voilà, des pages libres. Et à la dernière page, t'as une petite pochette intégrée dans le rabat pour ranger, par exemple, tes planches de stickers et puis tout ce que tu veux mettre dedans. Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, je pense que je vais réussir à m'y tenir parce que juste, j'en ai pas fait un truc intimidant et que j'ai ignoré tous les aspects intimidants du truc. Genre, j'ai pas vraiment lu le manuel, juste je me suis moqué des trucs de droite qu'il y avait dedans, et après j'étais là, bon, ok, je l'ai jeté. Parce que j'ai pas besoin de manuel pour utiliser un agenda, ça va, c'est pas, y a pas de piège, je parle l'anglais, donc ça va. Et, bah, juste c'est cool parce que je me suis posée du coup dimanche, j'ai apprivoisé la bête et tout, je l'ai ouvert, j'ai écrit dedans. Je me suis bien évidemment trompée en écrivant le mot septembre, qui est le premier mot que j'ai écrit dedans. J'ai donc fait une rature et j'étais là, putain, ça fait bolos quand même. Et après, j'étais là, on s'en bat les couilles. Déjà, personne va le voir parce que, a priori, c'est mon planeur. Et aussi, juste, on s'en fout. Enfin, c'est pas un truc sacré, c'est juste un truc, un outil de la vraie vie. Et moi, j'ai ce vrai truc de, j'utilise pas trop de carnet parce que j'ai toujours ce truc de, si le carnet il est beau, il faut bien écrire dedans et tout. Comme tout le monde, enfin, au bout d'un moment, j'ai 28 ans en 2020, j'écris pas si souvent à la main. Donc, en plus, un carnet, j'ai fini un carnet dans ma vie, je pense, depuis que j'ai quitté la fac. Et il était vraiment pas long, il devait y avoir un truc genre 25 pages dedans. Et j'écrivais très gros. Donc, vraiment, j'ai pas ce truc des carnets, des meufs qui achètent de la papeterie tout le temps. Moi, je suis là, pff, vraiment, ça m'encombre plus qu'autre chose. Mais là, du coup, je le vois pas comme un truc sacré où il faut tout bien écrire avec les bons stylos et tout. Bon, j'essaye d'avoir les stylos que j'aime bien parce que je suis un peu zinzin des stylos. Les best stylos étant les Papermate Flair noirs, qui sont des feutres, mais c'est quand même les meilleurs stylos, vous le saurez. Et du coup, bah, je m'en sers juste un peu tous les jours, je regarde et tout, je fais ok, mon objectif c'est de faire tel élément du projet cette semaine, et après, bah, du coup, j'y arrive et tout. Et aussi, comme j'ai écrit tout mon programme du mois, bon, il y a plein de... Genre là, on est le 17 ou le 16, je sais plus, je sais pas ce que je fais le 28 par exemple, j'aurais peut-être une soirée ce jour-là qui n'est pas encore notée. Mais du coup, bah, ça me permet quand même une visibilité, et je mets des petites gommettes, des petits stickers pour dire là, c'est la fête, là, c'est un déjeuner, là, on est content.
Ah voilà. Oui, ok.
Et bah, du coup, je suis contente, parce que je pense que je vais réussir à m'y tenir, et que du coup, ça va peut-être me débloquer mon blocage de tous les outils organisationnels que,
putain, mais...
que la Startup Nation a inventé.
Je vais m'en acheter un.
C'est que...
En sortant,
on mettra un lien affilié dans les notes du podcast. Non, en vrai, il est vraiment cool quoi comme outil. Et puis, il est un peu plus fancy qu'un agenda, mais il en fait pas des caisses. Et c'est un bel objet qui a l'air quali, donc c'est cool aussi.
Mais je trouve qu'en plus, Pardon, vas-y.
Moi, c'était mon cadeau, parce qu'en fait, quand j'étais à Miami, moi, j'ai un vrai problème avec la papeterie. C'est vraiment un truc, j'adore les cahiers, j'adore tout ça. Et sauf que j'écris jamais dedans. Parce que pareil, j'ai un gros blocage en mode il faut que ce soit absolument parfait, sinon je n'écrirai jamais dedans. Et du coup, mais d'ailleurs, on l'a découvert avec Doro quand on est parti à Deauville pour le festival du cinéma américain. En fait, je me rendais compte que si je tournais une vidéo qui n'était pas parfaite, je la retournais en entier.
Genre, si tu as commencé genre un paragraphe, une idée, et que tu te trompes sur le bout de la fin de la dernière phrase, tu recommences depuis le début du paragraphe. Ouais.
Et moi, j'ai un vrai problème avec ça. Tu vois, je suis obligée de faire tout bien de
A à Z. Mais tu t'es améliorée
de
ouf, hein ?
Ouais, ouais.
Rien qu'en...
Parce que la fin, c'était toute la merde. Tu disais rien, tu vois.
Mais tu vois, une fois qu'on en a parlé, t'as tout de suite... T'as vite pris le cash de reprendre juste ta phrase.
Mais j'aime pas. Mais tu vois, là, par exemple, quand t'as parlé du planeur, parce que moi, du coup, c'est ce que j'ai eu à Noël, parce que quand j'étais à Miami... pour mes vacances de Noël. on faisait... Tu sais, il y a beaucoup de grandes librairies en Amérique et t'as toujours un coin papeterie avec des cahiers magnifiques et énormément de planeurs et tout. Et à chaque fois que je vois ça, je suis là... Oh, il m'en faut un absolument. Et je l'ai utilisé une semaine et c'est terminé. Et du coup, j'ai eu ça comme cadeau. Et en fait, ça m'a angoissée de pas pouvoir remplir les premières pages, tu vois, ou de pas pouvoir... il fallait que j'utilise tous les stickers, sinon... Enfin, c'était pas possible, tu vois.
Et non,
du
mais
coup,
attends, j'ai... frère, il y a des stickers genre courbe financière. Je sais, est-ce que genre... Il y a un jour dans le mois où c'est genre... Ah, peut-être je fais ma compta. Genre, pas du tout, je fais pas ma compta, enfin. Donc bon, moi j'ai accepté le fait qu'il y a plein de stickers que
mais ça te dérange pas parce que moi ça me dérange les pages vides, tu vois, genre je suis là et vraiment on perd de l'espace et tout, enfin je sais pas. Non
parce que comme dans ma tête, et vraiment ça, c'est pas du tout un jugement sur les gens pour qui ça marche, hein, mais comme ça marche pas du tout pour moi, dans ma tête je suis en mode c'est un truc de bolos, tu vois, c'est comme s'il y avait des pages horoscope, je suis là en fait comme j'y crois pas, ça m'intéresse pas. Et du coup, c'est pas que je crois pas au développement perso, mais en tout cas il y a des méthodes de développement perso qui marchent pas sur moi, notamment tout ce qui est vision board, parce que justement une de mes angoisses, enfin, un de mes boulots avec ma psy, c'est de faire la paix avec le fait que j'ai pas de plan pour ma vie et que c'est pas grave. Du coup, tous les trucs genre vision board, ça ne marche pas parce que je sais pas quoi mettre dedans. Et après, j'ai des angoisses existentielles de est-ce que j'existe si je sais pas qui je veux être? Et après, ça part en spirale et wow. Voilà. Donc, ma psy, elle m'a dit, bah, en fait, tout simplement, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie et c'est pas grave. C'est comme ça, vous pouvez voir ça comme vous êtes un esprit libre et vous irez où le vent vous portera et vous allez apprendre sur le tas et tout. Et j'étais là, bah, en 28 ans, ça m'a plutôt bien réussi. Donc, le vision board, peut-être un jour ce sera ma cam, mais pour l'instant ça l'est pas, et du coup je suis juste en mode bah non, cette page n'existe pas.
Franchement, si je m'étais acheté le planner, j'aurais de 1 arraché les pages qui ne m'intéressent pas.
J'ai hésité, mais j'avais peur que ça décousse le reste. Tu sais, des fois t'arraches une page et ça nique la reliure ou quoi.
Ouais, mais dans ce cas-là, je sais pas, j'aurais collé un truc, tu vois. Ou genre tu colles les pages entre elles comme dans les carnets, mes meilleurs amis de Diddle.
Toi, t'es dans le déni, t'es là, je veux pas qu'on sache qu'il y a des pages vides.
Mais non, mais tu vois, genre, enfin, franchement, je pense que je m'en serais débarrassée. d'une façon ou d'une autre. Et je pense que j'aurais dégagé les stickers aussi. En mode, en fait, pas besoin, tu vois. C'est un outil, c'est pas grave.
Ouais, mais moi, si j'utilise pas tout, ça m'angoisse, tu vois.
Au final, j'utilise rien.
Ben oui, au final, j'utilise rien parce que j'ai vraiment fait une semaine. Parce qu'en plus, il fallait que ce soit exactement parfait depuis le début. Donc, j'ai repris le planeur avant de l'avoir eu. Et j'ai fait les trucs que j'avais fait à l'avant. Ah ouais, non, moi, c'est un délire. Faut vraiment, vraiment, si je vous demande des planeurs, parce que ma tante, quand elle m'a offert ça, elle me fait « Mais Alix, tu me l'as demandé, mais t'es sûre que tu vas l'utiliser ?» J'étais « Ouais, je suis sûre à 200%
!» Parfois, il faut...
Vraiment,
mais t'as un cahier, tu n'utilises pas ton cahier, toi, au quotidien ? Moi, j'avoue que mon cahier, c'est tous les jours que j'utilise. Cahier-là ?
Non, moi c'est pour noter genre vite fait mes interviews et tout, mais j'ai pas de tâches.
Parce que moi j'ai mon gros truc ultra épais plus 3 carnets qui ne m'appartiennent pas que j'ai volé à toutes les stagiaires qui étaient ici un jour. Et vraiment tous les jours je note ce qui me reste à faire parce que si j'ai pas le truc visuellement c'est ultra compliqué. Mais en revanche j'ai jamais considéré ça comme un objet sacré comme tu dis Mimi. Enfin moi vraiment t'ouvres un carnet. Je pense que vraiment personne, y compris moi dans cette pièce, est capable de savoir ce qui est écrit dessus. Ce qui est à la fois un problème et à la fois
mal.
J'écris vraiment très très mal. Mais en fait, ce qui est pas grave, parce que juste le fait de le mettre, moi je sais que si je l'écris, je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois. C'est bon, c'est gravé dans le papier, quoi.
Donc, si je le fais un petit peu avec Todoist, l'outil qu'on a au bureau.
Ah ouais, alors que ça, moi pas du tout, par exemple.
Mais moi je préfère le truc à la mano, quoi. Quand même.
Moi aussi.
J'imprime mieux quand j'écris, mais bon.
De ouf. Ça donne trop envie. J'ai trop envie de m'en acheter un. Hein. Ah avec ouais. Une reliure en cuir et tout,
je écoute, je te montrerai la bête et puis tu verras si ça te tente.
Trop bien.
Mais bon rapport qualité-prix, écoute.
Combien tu l'as payé ?
Je sais plus, mais pas très cher. Genre moins. Parce qu'au début, j'ai juste tapé planeur sur Amazon. J'étais là. Wesh, ça coûte 50 balles. Enfin, calmez-vous. Tu
ah
vois,
ouais.
C'est des carnets améliorés, wesh. Mais bon, comme c'est tout un business de. Comment. Enfin, même le mien, ils sont là. How we design the perfect planner. Ils sont là, tu sais, on dirait qu'ils étaient genre toute une équipe d'ingénieurs, de neuroscientologues et tout. Neuroscientologues, pas du tout. J'ai dit neuroscientist et neurologue en même temps, et du coup ça a fait neuroscientologue, un métier probablement très effrayant. Non.
Ils étaient toute une équipe de neuroscientologues.
On va le garder, de neuroscientologues, pour juste mettre des pages en plus dans un agenda, tu vois, où vraiment ils sont là, ça a été la recherche et développement pendant hyper longtemps. Arrêtez de vous branler, mais du coup, ça peut permettre de justifier de le vendre 50 balles. Je crois qu'il a dû me coûter genre max 30 balles. Il est vraiment fat, donc je trouve ça va. Ça okay. L'est.
Bah, merci Mimi pour ce gros kiff.
Et de rien.
Sacrément gros.
Et pour ouais, Mimi, je ne suis pas ambassadrice de Clever Fox. C'est juste une petite recours.
Juste de l'Alban Fest chez Lidl.
Oui. Ça, par contre, je suis rémunérée pour. Non, pas du tout.
J'aimerais bien.
Moi aussi. Allô Lidl. Quel indie, quel est ton gros kiff?
Eh bien, mon gros kiff, ça fait longtemps que je veux en parler, donc je suis contente.
Ça fait longtemps.
Mais pourquoi j'avais pas fait avant? Ah,
parce qu'il fallait
jamais ici maintenant, on peut pas parler des kiffs qu'on veut, quoi.
Non, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de livres et tu voulais aussi en parler avec Mimi.
Non.
C'est pas ça?
C'est pas celui-là.
Merci.
C'est pas celui-là. Non, non, si, mais celui-là, c'est les Fureurs Invisibles du Cœur. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Mais bon, bref, la dernière fois, c'est que je pouvais pas parler d'un bouquin. C'est un livre qui a révolutionné mon été. Mais vraiment, c'était très beau. Donc, je vous resitue un peu le truc. Je suis à Claddy Beach, dans ma crique grecque. Je suis bien, j'ai mangé ma salade de feta. Je suis au top. Quand j'ouvre un livre qui m'avait été recommandé par ma mère, et il faut savoir que quand ma mère me recommande un livre, soit vraiment je fais « merci » et je m'empresse de l'oublier illico presto parce que ma mère peut me conseiller de très bons livres comme vraiment de la merdasse. Et donc, je regarde elle m'avait conseillé ce livre et je me dis, mais c'est marrant parce que ce livre me dit quelque chose. Et je me souviens que c'était mon ami Jean-François, souvenez-vous de mon ami Jean-François Demey, qui est aussi mon faux père, mon faux vieux père, qui est romancier, qui m'avait offert ce livre, qui est le livre de sa meilleure amie, Emmanuelle Favier. Et par esprit de contradiction, j'avais jamais ouvert le bouquin. Bref, je l'emmène...
moi quand les gens me recommandent des séries.
Voilà. Donc, tu regarderas jamais Lovecraft Country, quoi.
Si, parce que ça, j'avais déjà envie.
Ok. Et donc, je décide d'ouvrir ce bouquin sur la plage et j'ai été happée de ouf. Ça s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières. Déjà, ce titre est sublime.
C'est vrai.
J'ai demandé une approbation.
C'est
pas, oui,
non, c'est vrai.
Déjà, on a fait une approbation silencieuse parce qu'on était sous le choc.
Ouais. Le courage qu'il faut aux rivières, c'est très beau. Et en fait, le sujet est passionnant et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. En fait, ça se passe au début de... On est quel siècle ? 21, oui. Ça se passe au... ça se passe début milieu 20e. Et en fait, le livre commence et c'est l'histoire d'une personne qu'on décrit comme un homme, qui a le corps d'un homme, qui est en train d'abattre un énorme travail physique dans son jardin. Et en fait, il fait coucou au chef de village. Donc on se dit, voilà, où est-ce que ça peut bien être? Apparemment, il vit dans ce qui ressemble à une tribu assez restreinte, avec chacune des personnes qui a un travail bien défini. Ils sont en autosuffisance totale. Et en fait, pendant tout le livre, la romancière ne dit jamais où est-ce que ça se passe. Et en fait, je peux vous le dire parce que du coup, c'est trouvable sur internet et puis c'est pas vraiment très, très grave. Mais du coup, il y a 3 pages à la fin du roman qui décrivent comment elle a eu l'inspiration de parler de ce thème-là et tout. En fait, ça se passe en Albanie, au nord de l'Albanie, à la frontière du Kosovo. Et en fait, ce livre traite des vierges jurées qui sont en fait ces femmes. Tu connaissais Mimi?
J'avais découvert via un article de Mad sur peut-être les sociétés matriarcales ou les... Tu sais, c'est toutes les réflexions autour de... Il y a plein de gens qui comprennent pas trop, notamment la transidentité, et qui disent un peu que c'est une invention récente de gens qui s'inventent des problèmes.
Okay.
Genre, en temps de guerre et de famine, ils avaient pas que ça à foutre de se faire chier avec leur genre, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, du coup, il y a plein de personnes qui étudient les différentes façons dont les différentes sociétés ont perçu le genre, mm-hmm. qui n'est pas toujours binaire. Et du coup, j'étais tombée sur cette histoire de vierge jurée.
Ben moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, en fait, c'est des femmes qui, en gros, ont été demandées en mariage pour la plupart quand elles étaient très jeunes, quand elles étaient enfants, et qui, en fait, au moment où elles ont refusé, ce qu'elles ne sont pas censées faire, se destinent à une vie à être considérées comme des hommes aux yeux de tout le reste de la société. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont genrées au masculin, elles font des métiers d'hommes, et on les même physiquement, on essaie de modifier leur manière d'être physiquement, je l'ai dit.
Mais bon, bref.
Par exemple, on leur bande les seins, etc. quand elles grandissent pour qu'elles soient plus plates. On leur fait faire des travaux manuels pour qu'elles puissent se muscler.
T'as dit des travaux manuels. Je dis des travaux.
Et voilà, et donc en fait, c'est l'histoire d'une femme, d'une vierge jurée qui s'appelle Manouché. Et Manouché, elle vit dans son petit village en Albanie. Elle a un travail monstrueux. Et en fait, elle s'est jamais questionnée ni sur ses désirs, ni sur ses désirs sexuels, ni sur ce qu'elle aimerait vraiment faire de sa vie si elle sortait tout simplement de ce village dont elle est évidemment jamais sortie. Et un jour, arrive un homme, un inconnu dont tout le monde tombe fou amoureux en 5 minutes, qui s'appelle Adrien. Et elle et Adrien vont se nouer d'amitié, une amitié très forte, parce que lui aussi cache un secret relatif à son genre. Et c'est fucking incroyable. Ça fait, je sais pas, genre 250 pages, c'est ultra court. Et en fait, au-delà de l'histoire, qui déjà est singulière, enfin vraiment, moi j'avais jamais entendu parler de ça. En plus, l'Albanie, t'es là. Qu'est-ce qui se passe en Albanie? Genre vraiment, je suis pas capable de dire ce qui se passe en Albanie.
Genre, je sais à peu près vers où c'est, mais je pourrais pas te dire sur une carte vers où c'est.
Bah, pas loin du Monténégro, enfin c'est dans les Balkans quoi.
Ouais, exactement, oui, voilà, Monténégro.
Mais bon, les Balkans pour moi, c'est un groupe de plein de petites frontières, voilà, de plein de petits pays. Mais...
Bah oui, c'est ça, tu vois. Et puis
dans... où, je ne sais pas.
Et en plus, les Albanais, quand on en parle dans les films, c'est les mecs de la mafia qui viennent zigouiller des gars, enfin tu vois. Donc en fait, on connaît rien de l'Albanie et c'est terrible.
Et en plus, il y a des trucs incroyables là-bas. Moi, je voulais partir en vacances cet été en Albanie parce qu'il y a vraiment des plages de ouf.
Bah, c'est ce qui. Des plages et des lacs sublimes, ouais. Avec des végétations incroyables autour. Enfin, ça a l'air vraiment, franchement, incroyablement beau. Et donc, au-delà de l'histoire, vraiment, j'ai rarement lu un livre aussi bien écrit de toute ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que chaque phrase est un poème, littéralement. Et la première page, je voulais le ramener, puis je l'ai oublié, parce que je voulais vous lire la première page. Ça commence juste, la porte se referma sur le dernier homme. Et je trouve que l'incipit est trop beau, tout est sublime. Et en fait, ça m'arrive très rarement de tomber en amour comme ça pour un style littéraire. Et vraiment, cette meuf, j'ai lu de bout en bout en me disant, en fait, il y a forcément un moment donné où il va y avoir un ventre mou dans le bouquin, non pas seulement dans l'intrigue mais aussi dans la manière dont elle est contée. Il y a forcément un moment donné où elle va se chier dessus en termes de style, ça va être moins beau, mais non, c'est-à-dire je sais pas combien de temps cette meuf a passé à écrire ce livre, mais chaque phrase est une merveille. Et du coup, j'en parle à mon ami Jean-François un soir en allant au resto. Je lui dis, écoute, tu diras à ta pote Emmanuel que enfin j'ai lu son livre et que vraiment ça m'a bouleversée, mais au dernier degré. Et il m'a dit, bah viens, on l'appelle. Et j'étais là, de ouf et tout, on l'appelle. Et donc il l'appelle, et elle était déjà couchée, donc elle a pas répondu.
Une anecdote de star.
Une anecdote de star. Ouais. Et du coup, il m'a dit, bah, je te donne son numéro et puis tu pourras la rappeler plus tard. Et il faut que je l'appelle. C'est vraiment dans ma to-do list de ce mois-ci pour lui dire à quel point j'ai trouvé que son travail était sublime. Et en fait, elle a écrit un deuxième roman, mais c'est La vie imaginaire de Virginia Woolf. Enfin, c'est pas le titre, mais je crois que c'est ça. Elle a imaginé ce qu'avait été Virginia Woolf. Et je suis là, Virginia Woolf, c'est déjà chiant à lire. Alors, un bouquin sur sa vie, tu vois, laisse tomber. Mais voilà, franchement, j'ai lu ça avec un bonheur incroyable et Dieu sait que ce livre est dur à lire parce que j'arrive pas ce soir, hein, parce qu'en fait, il dépeint une réalité qui est ultra dure. En fait, le livre devient de plus en plus violent au fur et à mesure que les pages se tournent et franchement, c'est ma révélation de cette année en termes de bouquins. Je me suis réconciliée ce que je disais la dernière fois dans le dernier LMK dans lequel j'ai participé. Waouh, je crois qu'on peut décider que j'arrête cette journée maintenant, genre auquel j'ai participé, c'est que vraiment en ce moment je me réconcilie avec la lecture et bah je m'étais jamais vraiment fâchée avec elle, mais juste j'avais arrêté de lire autant parce que maintenant que j'habite à côté, bah j'ai 4 stations et en fait 4 stations, t'ouvres ton livre, tu lis 2 phrases puis tu te plantes 2 stations, enfin bon voilà.
ça sent le vécu.
Ça sent vraiment vraiment beaucoup le vécu et en fait là cet été j'avais tellement de temps pour moi que j'ai vraiment lu genre 8 gros bouquins et en fait ça me fait un bien fou de me retrouver dans ce monde imaginaire et puis ça nourrit davantage quand t'écris en fait, c'est con mais évidemment, enfin dans Le courage qu'il faut aux rivières j'ai appris un nombre de mots mais un délire, j'étais là, je savais même pas que je connaissais aussi peu de mots parce que vraiment vraiment il y a 250 pages et je suis là vraiment par page il y a 2 mots que je connais pas, tu vois,
mais ça te dérange pas?
Non, parce que j'adore apprendre des mots, parce qu'après, je sais que je vais les recaler quelque part. Et moi, tu sais, j'aime rien en société, donc forcément, ouais. C'est un bonheur.
Oui, alors que moi, ça m'angoisse.
Ah oui, bah oui, non, mais moi, c'est pas... Oui, au début, je suis là, je suis vraiment une merde. Et puis après, je me dis, bah, tu sais quoi, après, tu le sauras, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais moi, je leur tiens jamais les définitions et tout. Du coup, en fait, quand je me retrouve en face d'un texte où j'ai vraiment pas du tout le vocabulaire, tu vois, je me dis... En fait, je dois juste pas être la cible et c'est pas grave, tu vois. Mais quand je me retrouve 3 fois à chercher des définitions, ou bien que c'est la 3e occurrence du même mot que j'ai déjà cherché et que j'ai réoublié, tu vois, moi ça me fait abandonner assez vite.
Je comprends, ouais. Bah, je te dis ça, mais en même temps, je suis incapable de citer un mot que j'ai appris là. Voilà.
Ce ouais, qui est donc, alors, moi j'ai appris un mot il y a longtemps.
Alex, première de la classe.
Incroyable.
Moi,
j'avais 8 ans, j'ai appris un mot.
Ben oui, parce que ma mère nous faisait un mot par jour, donc on devait apprendre un mot et l'utiliser dans la journée. Donc on ouvrait le dictionnaire et le seul mot que j'ai retenu, c'est sycophante. S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E.
C'est quoi ça?
C'est une poucave. Voilà, un sycophante, c'est une poucave, donc vous pouvez le réutiliser.
Et t'as appris une expression cette semaine que tu connaissais pas.
Ah oui, alors qu'est-ce que tu m'as dit?
Mais c'est vraiment une expression que j'utilise toutes les 2 minutes, et genre la meuf l'avait...
Courbouillon du cul, non?
Cette expression bien connue, courbouillon du cul.
Courbouillon du cul.
Alors cela dit, t'es complètement capable de dire courbouillon du cul à un moment de contrariété, hein.
Non mais si, on va pas se mettre la rate au courbouillon, quoi.
La rate au courbouillon, je connais.
C'est vrai
pas.
Que tu le dis souvent.
Je le dis vraiment. Merci, je le dis.
C'est un peu une expression de tati, mais c'est vrai que tu le dis souvent.
Mais pourtant, j'écoute Kalindi, hein, et je sais que c'est dur, mais j'écoute vraiment attentivement tout ce qu'elle dit. Mais j'avais jamais remarqué que tu disais ça. Mais d'accord, ouais. Mais maintenant je sais. Voilà, top. Bah merci Kalindi pour ce
mais
gros.
Mais de rien, je vous offrirai Le courage qu'il faut au rivière. Bah, j'ai vraiment très envie que vous lisiez.
Moi j'espère, j'aimerais trop le lire en vrai. Moi je te dis, j'ai un peu abandonné la lecture, donc je suis chaud de reprendre.
Eh ben super.
Eh ben voilà. Eh ben du coup c'est à moi.
Oui.
Mon gros kiff. Vous l'attendiez tous. Le festival du cinéma américain. Je suis partie quasiment une semaine de chez Mademoiselle pour couvrir ce festival. Et cette année on a fait un truc vraiment de ouf, c'est qu'on a fait un vlog.
Waouh.
Et c'est disponible dans les IGTV de Mademoiselle. Je devais partir avec ma vieille mère, mais bon. Ça s'est pas fait.
J'ai été très malade.
Mais c'est pas grave. J'ai fait quand même tout seul.
T'as fait très bien.
Et...
Oui, très bien.
Et en fait, j'étais grave contente parce que bah, ça m'a fait un peu flipper au début. Et puis finalement, une fois sur place, en fait, j'étais là, mais que demande le peuple? Je suis dans un hôtel 4 étoiles. Je vais mater des films 2 à 3 par jour, voire 4 parfois. Et je regarde Gilmore Girls le soir. Et...
Il y a une piscine.
Il y a une piscine.
Dans laquelle personne ne va.
Dans laquelle personne ne va, sauf moi, qui chauffais à 28 degrés en extérieur. Et je mange au resto. Quelle vie est mieux?
Et Vanessa Paradis t'a dit merci.
Et Vanessa Paradis m'a dit merci, pas loin de moi. Et, non, mais, et je rencontre des gens incroyables, parce que j'en avais déjà fait un kiff dans Laisse-moi kiffer.
Mais les interviews, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Et là, encore une fois, j'ai pu rencontrer 3 personnes pendant le festival que j'admire énormément. Yann Gonzalez, qui est un réalisateur de films entre guillemets queer, mais en fait, il fait des films assez romantiques, très... c'est quoi le mot que je cherche ?
Onirique.
Onirique, voilà, exactement. Onirique, et sur des gens qui ont une identité sexuelle non définie. Enfin, en fait, qui ne la revendiquent pas, mais juste qui sont hyper libres. Et du coup, ça fait des personnages de cinéma où t'es là, bah, ok, j'attends de voir ce qui va se passer. Et c'est vraiment magnifique, c'est de la poésie. Donc, j'étais ravie de le rencontrer. Il faisait partie du jury. J'ai aussi rencontré Mounia Medour, qui est une réalisatrice, une jeune réalisatrice. Elle a fait 3 documentaires et 1 court-métrage, et là, elle avait sorti Papicha, qui est son premier long-métrage, et elle a gagné le César du meilleur premier film en 2020.
Et Mademoiselle était partenaire.
Et Mademoiselle était partenaire du film, et elle a remporté le prix Alice Guy de la réalisatrice de l'année. Alice Guy, qui était la première réalisatrice de cinéma pour Gaumont dans les années 1895. Non, plus tard, début 1900. Donc voilà, c'est franchement une meuf incroyable. On a parlé premier film, Yann Gonzalez, on a parlé cinéma queer. Et après, j'ai rencontré Maïwenn qui présentait son nouveau film en avant-première mondiale, qui s'appelle ADN. Et c'était vraiment cool de pouvoir la rencontrer, parce que pour le coup, elle, c'est grosse réale, quoi. Puis grosse actrice aussi. Donc voilà, j'ai tellement kiffé faire tout ça et puis faire ma life. Je sais pas, bosser devant l'océan. Non, mais je sais que t'en as fait un kiff de bosser dans le train et oui, dans des endroits qui sont pas à ton travail. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'adore aussi. Et franchement, ouais, c'était...
Surtout dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Vraiment, ouais, c'est quand même top. Hein.
Ah ouais, pas le Formule 1, quoi.
C'est après, elle est arrivée la première nuit, je l'ai empêchée de dormir parce que je ronflais trop. Mais...
Oui. On a été comme un
bébé
vieux couple.
Je suis désolée.
On a été comme un vieux couple le lendemain, aller à la pharmacie et dire « Alors moi, je voudrais des trucs pour dormir et puis moi, je voudrais des trucs pour ronfler. » Donc du coup, on a pris chacun nos petits médicaments le soir. « Ah, bonne nuit !»
Et les boulequiers sont fins, les boulequiers se règlent tous les problèmes.
Non, mais moi, en fait, j'ai un problème et je me suis beaucoup renseignée durant cette nuit-là où j'ai pas dormi. Non, mais t'inquiète, je sais que mais c'est pas de ta faute, en fait. Enfin, c'est juste, moi, je suis misophone, en fait. J'ai des problèmes avec les bruits, mais je le sais, hein, même quand je vais au ciné et que les gens s'embrassent, les bruits de bouche qu'ils font, ça peut me faire sortir de mes gonds, tu vois. Et c'est pas en mode, je peux pas dormir parce que le bruit me dérange, c'est je peux pas dormir parce que j'ai des pulsions de vénère en moi. Et ça marche pour les bruits de bouche aussi. Quand quelqu'un mâche la bouche ouverte en face de moi, je peux le haïr du plus profond de mon être. Enfin, vraiment, ça me déclenche des pulses. En fait, ça me fait des déclics dans le cerveau. Et en fait, je me suis vachement renseignée sur la misophonie. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est comme des mini-crises d'angoisse avec des bruits redondants ou désagréables pour toi, tu vois. Par exemple, un plug dans un lavabo, tu vois, ça peut te rendre fou. Et moi, enfin, voilà, je savais plus ou moins que j'étais ça, mais j'ai fait pas mal de recherches. Et
j'imagine tellement Doro qui dort de sa meilleure life en ronflant.
Et moi, je toi qui es ultra vénère, ouais, dans le noir sur ton smartphone en mode OK Google, c'est quoi la misophonie.
Et je lui avais dit de me réveiller et tout si jamais je ronflais que ça la gênait. Et du coup, moi, tout ce que j'avais l'impression, c'était que t'étais gênée par une mouche, quoi.
Ouais, non. Parce que moi, j'ai dormi. Mais je faisais Doro et je faisais comme dans le film là. Comment il s'appelle? Le film, c'est pas La Septième Compagnie, c'est l'autre. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Quand il siffle pour que l'autre il se renfle, du coup j'étais là Doro.
Mais faut pincer le nez, moi c'est ça que je faisais à mon ex tout le temps.
Mais non, mais je veux pas pincer le nez de Doro.
Bah pourquoi?
Je t'ai dit que tu pouvais me frapper. Hein.
Non, mais j'allais pas le faire. Non, mais je me suis mise dans le couloir.
C'est quand même génial, en plus quand tu leur pinces le nez, tu sais, ils s'étouffent, donc ils sont là comme ça. Et c'est comme ça.
On sent que c'est une source de plaisir chez toi.
Tout à fait.
Il y a une forme de sadisme là-dedans. Plutôt non, parce que vengeance.
Oui. Non, mais parce que moi, le pire pour moi, en fait, c'est quand ça s'arrête et que ça reprend. Donc, en fait, si...
C'était tendu, du coup.
Ah, ça me retend, en fait. L'idée de me détendre un tout petit peu et de me retendre, ça, c'est pire que le truc continue. Donc, non, je me suis calmée toute seule. Voilà, je vais faire des efforts sur moi-même pour arrêter d'être comme ça, quoi, parce que c'est chiant. Et du coup, vrai, attends, je suis pas le pire niveau, mais il y a des gens, vraiment... qui deviennent asociaux parce qu'ils peuvent plus supporter le moindre bruit que font les autres. C'est fou, hein.
Mais du coup, je comprends pas pourquoi les boules caisses ça t'aiderait pas, parce que du coup, c'est
parce que je sens les vibrations et genre c'est un truc qui rentre dans mon cerveau.
Ok.
En fait, c'est
même si t'entends pas le bruit à 100%, si t'as 1% de bruit, ça.
Si je me réveille à cause de ce bruit, parce que je me réveille jamais, tu vois, genre vraiment, je suis la plus grande dormeuse de tous les temps. Il y a aucun bruit sourd qui me réveille, mais les bruits réguliers, ça me réveille. Et si je l'entends une fois, mais laisse tomber, impossible. En fait, il faut un autre bruit, et c'est pour ça que j'ai dormi avec un casque, en écoutant je sais plus quelle mer, quel océan, je sais plus. Et voilà, et il fallait que ce soit à fond, et que je me concentre sur un autre bruit, parce qu'en fait, c'est un problème de concentration, c'est pas un problème de bruit, c'est un problème de concentration, et c'est comme si bah, ton cerveau qui tourne en rond, tu vois, et il est en boucle sur une pensée. Ça rend fou.
Du coup, est-ce que genre les noms de fruits c'est dans la misophonie ou pas? Non, mais est-ce que c'est lié à la misophonie? Tu vois, je me demande.
Bah, au final, c'est des sons. Rien, ouais.
Parce que quand ils sont écrits, ils t'énervent pas. On est d'accord.
Moins, ouais.
Moins. Ils restent calmes quand même, mais ils te choquent moins. Tu vois, ils me choquent moins. C'est la sonorité.
Oui, mais c'est la sonorité, oui, qui me dérange beaucoup okay. plus que. Mais oui, ça va peut-être là-dedans. Hein, je sais pas. Si vous avez des spécialistes pour suivre
si
le cas
êtes,
grave
neuroscientologue,
que je suis...
venez.
Mais aussi des conseils anti-ronflement, parce que vraiment, genre, le spray dans le nez, ça me faisait éternuer. Ça m'a juste fait éternuer, donc c'était pas très productif. Et les patchs, c'était pas une grande réussite.
Mais en vrai, je crois qu'il y a rien qui marche pour le ronflement. Soit tu te fais opérer parce que c'est vraiment vénère, soit à la limite, si tu peux dormir, genre... assis, tu vois, comme quand t'as là le pire rhume. Mais sinon, à part ça, juste tu ronfles. Enfin, ouais. Je pense qu'on aurait ça. Trouvé, tu vois, s'il y avait un truc, on le saurait. C'est comme la calvitie, c'est juste genre, y a pas de truc.
Mais le pire, c'est que tout le monde ronfle. Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé de ronfler. Les gens me l'ont dit, j'étais là, non, c'est faux, mais.
Mais tu admets maintenant que c'était probablement vrai.
Mais le pire, c'est mon cousin, oh le pauvre. À chaque fois qu'il dort avec moi, il dort pas. Parce qu'il a peur de ronfler et que je le défonce après.
La cruauté de la misophonie, putain!
Doro, si tu veux me parler en privé de ton séjour avec Alix, si elle a été méchante avec toi, tu
non,
peux
me dire. Non, j'ai pas été méchante. Mais en vrai, j'ai pas été méchante avec mon cousin, c'est juste que je lui ai dit, ronfle pas! Il a flippé, voilà. Comme toute personne sensée face à moi, 1m63 qui dit ronfle pas! Et voilà.
Moi aussi, j'aurais eu peur, Alix.
Voilà, bah c'était mon séjour à Deauville. Non, mais bien sûr, j'ai fini par dormir et j'ai passé un super séjour. Et ça m'a fait plaisir d'y aller avec toi aussi, Doro, parce que tu m'as beaucoup aidée à me filmer tout le temps, partout, de tout ce que je faisais. Et c'était pas facile de tout faire en même temps. Et c'était vraiment, je suis contente.
C'était un plaisir.
Vraiment très très contente de cette expérience. Vous pouvez les retrouver bien sûr dans les liens de ce podcast. Je vous mettrai le lien du premier vlog. Vous pourrez ensuite aller dévorer tous les autres.
Mm-hmm.
Voilà, voilà. Et c'est maintenant à Doro de faire son gros kiff.
Ah, oh, j'ai le cœur qui bat fort. Ok.
Why?
Allez. Eh bien, comme teasé dans le LMK précédent, je sais déjà plus parler, super. Eh bien, c'est mon dernier LMK parce que c'est bientôt la fin de mon aventure chez Mademoiselle. Et je voulais faire mon gros kiff sur, avoir travaillé chez Mad, c'était super. Me sentir prête à partir, c'est super. Et la suite, je pense que ça va être super aussi. Et je suis dans une grosse phase de transition dans ma vie, parce que du coup, ça fait plus de 4 ans et demi que je suis arrivée chez Mad, ce qui fait
4 ans et demi, ouais.
Ouais, je suis arrivée directement à la sortie de mes études, en stage de fin d'études. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait une école d'ingé qui ne me sert à rien.
Attends, je savais pas. Sert à comprendre le travail de Anne, notre développeuse. Personne comprend, et du coup, des fois, Doro, elle parle avec Anne, et Anne, elle est là. Ah, cool, j'ai des gens qui comprennent mon travail.
Littéralement, la seule.
Putain, je savais pas, genre.
Mais
okay.
je suis ingénieure informatique, image.
Ok.
Voilà, ingénieure créative. J'ai fait une école qui s'appelle Image Multimédia Audiovisuelle Communication, et donc IMAC, qui est vraiment un nom de merde pour autre chose que IMAC.
Mauvais pour le référencement Google. Voilà. C'est pas bon.
Et donc moi je suis arrivée en mode, j'ai donc découvert que je voulais faire des vidéos grosso modo 20 minutes avant d'envoyer un mail à Mademoiselle. Hein. Moi j'étais en mode ouais super, je vais faire une école d'ingé, donc je vais faire des trucs d'ingé, genre des effets spéciaux, c'est ce qui m'intéressait le plus. Deuxième année j'ai découvert que les maths ça me passionnait largement pas assez, et mon niveau n'était largement pas assez bon pour que je me retrouve à faire des inversions de matrices, de machins binaires et tout. J'étais là, non, non merci, ça ira, c'est gentil. Du coup, vu que j'avais passé 4 ans à apprendre à faire des sites internet, je me suis dit, je vais faire des sites internet. Ça gagne bien, le web, c'est bien,
c'est clair.
Super, la carrière, le milieu en expansion, le marché du travail, voilà. J'ai fait plein d'entretiens et vraiment, ils m'ont regardé. Enfin, genre, moi, je m'en étais pas rendu compte, mais un jour, j'ai vu dans le reflet, dans les les yeux de mon du mec qui me faisait passer l'entretien d'embauche, qu'il avait compris que je m'en battais les couilles, bien plus que moi j'avais compris que je m'en battais les couilles. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu une petite crise existentielle. J'étais là, mais attends, genre mon stage, il est censé avoir déjà commencé. C'était 4 à 6 mois. Et moi, les 6 mois avaient commencé, quoi. Et j'étais en mode, je vais jamais trouver un stage dans le web, en fait. Parce que, enfin, vraiment, je l'ai vu dans sa tête. Et en fait, maintenant que j'y pense, je revois dans tous les yeux des autres gens à qui j'ai passé dans l'entretien qu'en fait, je m'en bats les couilles. Et du coup, ben, j'ai eu un petit moment de, ben, fais des vidéos. T'as pris spécialité audiovisuelle cette année. Je faisais pas beaucoup de vidéos, en fait. J'ai fait quelques montages sur des clips à la con et tout. Et j'avais pas grand chose à montrer. Et sauf que ben, j'ai fait le truc que je fais quand je bade, j'ai ouvert YouTube, quoi. Et puis j'étais comme un con devant YouTube en me disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ?»
Ok, super, ok Google.
Super, devoté. Et du coup, ben, je suis retombée, j'ai commencé à parcourir YouTube en me disant « En fait, pour qui est-ce que j'aimerais travailler ? J'aimerais travailler pour Mademoiselle. » J'ai écrit un mail. J'avais pas beaucoup de références, en fait, dans les trucs. Le seul truc que j'avais fait de A à Z toute seule, c'était la vidéo du week-end d'intégration. De la promo en 30 qui était sur le thème Harry Potter et du coup bah, j'ai filé ça quoi en mode bon bah voilà c'est le seul truc que j'ai fait de A à Z donc voilà et donc j'ai plus ou moins été recrutée sur une vidéo de week-end d'intégration
c'est génial
et voilà et en fait quand je repense à moi il y a 5 ans, ben j'ai énormément de tendresse pour elle et je suis hyper impressionnée de où je suis maintenant parce que avec tout ce temps passé ici, j'ai appris un milliard de choses et c'est ce que je souhaite à tout le monde dans en sortie d'études de trouver un taf où t'es enfin je sais pas, j'avais l'impression que en arrivant, j'avais l'impression que c'était une montagne quoi, que je saurais rien faire parce qu'en fait moi j'ai appris à calculer à quelle distance un objectif allait faire la mise au point par rapport au chiffre qui est écrit dessus. J'ai pas appris à faire une vidéo quoi, tu vois. J'ai jamais appris à réaliser des trucs. J'ai appris la technique et j'ai appris les maths et là je me suis retrouvée dans le grand bain en mode bon bref, faut faire une vidéo sur ça demain, tu viens? Et bah j'étais oui. D'accord, ça va le faire. Et avec le temps, ben, enfin, la technique, c'est l'outil pour aboutir à faire des vidéos. Mais en fait, pour moi, ça a été un taf qui était ce que je dis souvent ces temps-ci, en vrai. Mais c'est genre, pour moi, c'est un taf qui est 70% humain, 30% technique. Mais en fait, c'est surtout mettre à l'aise les gens. Est-ce que la prise elle est bonne? Oui, non. Pourquoi? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es dans les bonnes conditions pour faire le tournage? Est-ce que savoir les mettre en valeur aussi, comprendre. Comment est-ce que les gens ils se sentent beaux pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'après ils aient envie de refaire des vidéos, pour pas que ça soit un truc bloquant de putain je ressemble à rien, je vais plus jamais en refaire parce qu'en fait genre t'as la caméra qui est trop basse par rapport au visage et du coup t'as une tête que t'as pas l'habitude de te voir en vidéo, tu vois.
Je peux te dire que j'aime pas quand j'ai un double menton sur les
mais
vidéos.
Mais t'es pas
hein.
La seule.
Personne n'aime ça.
Et en fait, en vrai, quand j'étais en études encore, j'étais encore petit bébé à peur du monde et encore sur le cul d'avoir un diplôme d'ingénieur parce qu'on lui avait dit qu'elle y arriverait jamais. Et parce que moi, je viens d'une famille où l'art, ça n'est pas un métier, où tout est tellement flou dans les perspectives d'avenir que ce que je fais maintenant, c'est considéré comme de l'art alors que en fait, je fais du divertissement. Et dans tout ce flou comme ça de j'étais déjà un peu sur le cul de ce qui était en train de m'arriver avec un syndrome de l'imposteur de bâtard. Et en fait, je repars confiante et vraiment hyper, le cœur rempli de gratitude d'avoir passé autant de temps ici, d'avoir rencontré autant de gens, d'avoir pleuré dans la cuisine avec Élise parce qu'on ne savait pas comment faire des vidéos. Et quand on était là, est-ce que c'est drôle? J'en sais rien. Et à faire des trucs qui pour moi maintenant sont... Ou maintenant, si je dois faire des trucs, certains trucs que j'ai fait pendant tout ce temps-là, si je devais les faire demain, ça me ferait plus peur du tout, je serais juste enthousiaste. Alors que c'est que des premières fois qui m'ont fait flipper ma mère et où en fait j'étais juste, je me disais en fait faut que ça sorte, faut que ce soit fait, donc on va le faire. Et j'ai appris un milliard de choses et je suis trop contente. Et voilà. Et je me dis en ces temps passés chez Mad, j'ai appris à faire DJ et on a mixé au Solid Days. Tu fais des trucs aberrants. On a lancé 5 chaînes YouTube en une semaine quand il y avait les chaînes individuelles avec Wincam, Charlie et tout. On a fait plein de trucs à la con. J'ai fait des vidéos toute seule aussi, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que je me sentais jamais prête à passer devant la caméra. Je me suis moi-même coupé des vlogs mad pendant un an et demi. Si j'apparaissais à la caméra, je m'enlevais. J'étais là, non, c'est bon. Merci, ça va.
Insupportable.
Et maintenant, alors pourquoi je m'en vais? Je m'en vais parce que je sens que Paris n'est plus l'endroit où j'ai besoin d'être pour évoluer. et j'ai envie de grandir sur plein de trucs, et là c'est plus le bon endroit, et c'est plus le bon cadre pour moi, et du coup je vais repartir vivre en Alsace. D'abord prendre du temps pour moi, parce que Paris, la vie, c'est quand même fatigant, wesh.
C'est clair.
Et en fait, moi, si tu me laisses dans un environnement où je peux sortir tous les soirs, je sors tous les soirs. Et après, je n'ai plus d'argent et je n'ai pas assez dormi. Et au bout d'un moment, bah, ça use. Et même avec la quantité d'opportunités de faire des rencontres, faire des soirées, faire tout ce que tu veux, je trouve que c'est un endroit génial pour un milliard de choses, mais qui du coup ne sont plus adaptées à mes besoins actuels, qui sont me centrer sur moi, tacler ma phobie administrative, aller rechercher mon style en tant que réalisatrice, voir ce qui se passe quand j'ai juste une caméra et du temps, et pas un métier qui me demande d'être créative, et voir où mes idées mènent. Et juste, ben, je vais aller traîner dans ma famille, je vais aller traîner avec ma grand-mère, je vais aller balayer son jardin, et ça va être super. Et voilà, genre, je pars sereine. Et c'est marrant parce que quand tu dis que tu pars de Paris, les gens projettent leur peur sur toi. C'est immédiat. Enfin, il y a tellement de gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, ah, mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça, que ce soit ce truc de cette espèce de sentiment d'échec, parce que quand tu pars à Paris, c'est un peu quand tu, genre c'est l'équivalent de New York, quoi. C'est si tu pars, en plus tu rentres chez tes parents, tu vas, moi je vais aller vivre chez ma sœur. Donc il y a tout de suite ce truc de ah ouais, mais genre limite
ça fait un peu t'es en burn-out et tu te barres,
ouais.
Quoi.
Ouais, ouais, ça fait
t'es pas assez costaud, ça ouais. Marche plus, quoi.
Soit il y a mais t'as pas peur de te faire chier. Ah ouais, mais attends, et pour ta carrière et machin. Et en fait, je pense que, enfin, moi, je perçois ce changement, cette décision comme un. En fait, je vais aller prendre le temps d'investir en moi, et littéralement et psychologiquement, de prendre le temps d'aller rembourrer tous les petits creux qu'il y a eu, que j'ai jamais réussi à remplir dans ma confiance en moi, dans ma perception de moi, dans la société et tout. Tous ces petits trucs que moi, j'ai grandi, ben, j'étais un gruyère. J'étais un gruyère et ça tenait un peu, mais c'était un peu mou parce que j'avais pas une confiance de ouf. Et j'ai été beaucoup, ben, je me suis un peu fait taper dessus par la vie, quoi, quand j'étais petite. Et je pense qu'il faut que j'aille remplir un peu tous ces trous et que je crée une base plus stable pour ensuite pouvoir partir. Et donc, voilà. Je vais probablement ouvrir une chaîne YouTube. Je sais pas ce que je vais faire dessus, en fait, parce que c'est tout le plan, c'est de pas savoir.
Ce sera mon gros kiff direct, même s'il y a pas de vidéo.
Ce sera, pour l'instant, la seule vidéo que je suis sûre de faire, c'est que j'ai vraiment envie de filmer ma grand-mère, mais je vais faire à bouffer, je pense. Mais en fait, sinon, j'en sais rien, quoi. Et ça me fait pas peur. Et ça, c'est un luxe que je suis en train de m'offrir qui j'espère sera, enfin je vois ça comme le premier investissement de ma vie, quoi, et j'ai hâte, et en même temps bah ça fait peur quand même de partir et de quitter tous les gens qu'on aime et de plus avoir tout le temps en mode ah, vas-y on va boire un coup, et ça va faire bizarre et je suis un peu triste quand même parce qu'il y a plein de gens que j'aime à Paris et tout, mais voilà. Je suis très contente et abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur laquelle il y aura aucune vidéo.
Bah oui, donne ton Insta et tout. Quoi.
Ah oui, alors sur Instagram, je suis drôle du 6-8. Je suis encore en débat avec moi-même. J'ai très envie d'appeler ma chaîne comme ça. Alix a raison de dire que si vous me cherchez, vous n'allez pas taper drôle du 6-8.
Once again, Dorothée Bitchy, c'est un très bon nom.
Mais c'est pas Bitchy, putain.
Mais ça marche. C'est un pseudonyme, mais juste un peu. Juste.
Non, mais je vais porter mes couilles et je vais m'appeler Dorothée Bitchy, comme une adulte.
Allez.
Voilà, Dorothée, D-O-R-O-T-H-E-E, Bitchy, B-I-E-C-H-Y. Vous me verrez, je ferai peut-être que une fois que j'aurai une caméra. Ouah là là, c'est dans longtemps. Hein. Une fois que j'aurai une caméra et un ordinateur de montage, chose que je ne possède actuellement pas parce que j'ai fait tout mon travail chez Mad et que le soir je faisais pas de vidéo pour moi. Ben quand j'aurai tout ça, ben je vous ferai des vidéos. Je me ferai des vidéos surtout. Et si vous avez envie de les regarder, c'est cool, mais la priorité ce sera que je me fasse des vidéos. Et voilà, bah si vous voulez, abonnez-vous.
Vous voulez, abonnez-vous tout
abonnez-vous,
de suite.
Putain,
c'est un ordre direct.
C'est un ordre direct.
C'est comme ronfle pas, tu vois, c'est abonne-toi et basta.
Ronfle pas. Ronfle pas et abonne-toi, d'accord.
Faites ta tag live.
Je ferai en sorte de déréférencer toutes les vidéos de merde qui est sur la chaîne depuis mes études. Parce que c'est vraiment genre mon compte Google de lycée, quoi. Mais ouais, on se retrouvera sur Internet. Et ce sera bien.
trop bien.
Voilà.
Bravo,
merci
Doro.
Beaucoup, Doro.
Et merci
bravo,
pour tout ce temps dans les LMK, chose aussi où on m'a... Ça fait partie des enseignements de chez Mademoiselle où on m'a un peu poussé au cul en mode « T'es sûr que tu veux pas venir faire LMK ?» Il y avait tout ce running gag avec Fab où je disais que j'étais un boucherou à chaque fois que je venais.
Il était vexé.
Et il était pas très content. Et moi, du coup, je tirais la blague. En plus, ça a duré je sais pas combien de temps avant que j'intègre la team sucré-salé. Mais où j'ai aussi appris que je pouvais prendre la parole, pas que dans des articles qui racontent ma vie sexuelle en anonyme sur mademoiselle.com.
Le poteau rose.
Et quand Mimi dit que c'est pas elle, faut la croire, d'accord.
Tu sais que l'autre jour sur Insta, j'ai fait Ask Me a Question, là, pendant mes vacances, je sais pas, on avait une heure de route, je me suis dit je vais faire ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, en vrai, combien de pourcentage des articles de José l'Obsédé sont de toi ? Et j'étais là, non mais ça va, j'ai pas fait 75% de la rubrique non plus. Il y en a, pas un ni deux, il y en a quelques-uns, mais je sais que tu as aussi alimenté cette belle rubrique de Mademoiselle.
Oui, j'ai donné de moi-même. Et oui, et ce genre de truc, de, je pensais que ça servait à rien que je prenne la parole parce que je suis une personne de l'ombre cachée derrière la caméra. En fait, il y a que les LM Crado qui me connaissent. Enfin, je suis hyper discrète dans les vidéos, ça fait partie du travail.
Et ça fait partie de la façon dont t'as décidé de faire ton travail. Genre, bien sûr, si tu filmes une vidéo d'Élise, a priori, t'es derrière la caméra et tu vas pas venir faire des proutes devant la caméra à côté d'elle. Mais
j'écris
par exemple,
choucoute, hein, tu vois.
Dans le vlog, personne t'a obligé à te coter. Ça fait pas partie de ta mission de te coter du vlog.
Mais ça reste pas, ça a pas été dans mes ambitions et dans ma vision du métier chez Mademoiselle. Pour moi, c'était, c'est une fourmi de talent. On va faire en sorte de les mettre à l'aise et de les mettre en avant le mieux possible, de créer du contenu pour Mad et faire en sorte de faire un truc cool, quoi, de continuer cette lancée. Et pour moi, ben, je pouvais, enfin, c'était pas compatible le fait de moi me mettre en avant et de, en même temps, ben, dédier mon énergie à faire en sorte que la rubrique marche, que les gens soient à l'aise et tout. Et alors que du coup, là, je vais avoir le temps de me regarder dans les yeux et de faire des trucs. Donc, mais c'est, je pense que sans LMK et sans mes articles de cons que j'ai écrits, quand même, le premier, c'est moi qui raconte une soirée à Mimi sur un canapé et elle qui tape et ça devient un article sur ma vie.
Moi, j'imagine.
et ouais, ça m'a aussi appris que je pouvais prendre la parole et je vais finir par la prendre. Putain, il y a des trucs à raconter.
Mais j'ai trop hâte, hein.
De merci. Ouf. Bravo, Doro. C'est bravo. Même, c'était trop bien ce que t'as dit tout là. J'étais là, c'était bien.
Ah oui, c'était bien. J'étais là.
On n'a pas digressé, on l'a pas interrompu.
Ah bah non, mais là,
on n'a rien à interrompre.
C'est clair.
Voilà.
Merci beaucoup, Doro.
Merci, mais... Doro, pour tout.
Ouais, oui. Merci beaucoup. Voilà. Pour,
je t'aime trop, Doro.
Ouais, on t'aime beaucoup.
Je viendrai manger des spätzle.
Mais du coup, en fait, ça veut dire que moi aussi, j'ai une annonce à faire.
Putain, j'imagine les LM Crado, là, ils sont là.
Quoi, sont là, quoi,
quoi non, non, ta gueule, ta non, gueule.
J'ai pris la décision. Non, je rigole.
J'étais là, qu'est-ce qu'il va dire?
Non, mais du coup, Doro s'en va. Fab est parti aussi. Du coup, la team sucré-salé...
Ah, mais oui, c'est une vraie annonce. Ok.
Josiane, elle a pas les bails. Je lui ai dit 4 fois. La team sucré-salé, c'est donc Marie Vrignot et moi. C'est plus assez. On a décidé, en fait, de changer un petit peu le format de LMK. Ça va être plus court. Ça va permettre aussi de pas trop faire peur aux nouveaux LM Crado qui voudraient potentiellement écouter nos débilités, de voir 2 heures d'émission, ils se disent bon, bah, ça fait peut-être un peu peur.
109 épisodes de 2 heures,
ça fait un peu impressionnant.
Mais regarde dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui c'est disait, j'ai alors certes, ça lui a pris 2 janvier à mi-septembre, mais il a réussi. Tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté.
C'est vrai. Mais voilà. Du coup, on va réduire un petit peu l'émission. Donc voilà, ça passe aussi par n'avoir plus qu'une seule team qui sera constituée de
Mimi!
Oui! Ouais
évidemment!
Kalindi!
Ouais!
Alex Martino!
Alex Martino! Putain, donc il n'y a que quand c'est moi que tu participes pas, quoi!
Mais t'aurais pu. Elle a crié pour toi! Moi, personne criait pour elle, j'ai crié pour elle! Oh là là!
Merci, Mimi, de crier pour moi! Et Cédric qui pourra pas tout le temps être là, donc il y aura aussi Marie Vrignot. Enfin voilà, ce sera un peu une chaise. Qui nous permettra d'être un peu libre dans le 4e invité. Voilà. Et puis, bon, vous connaissez LMK, hein, c'est
donc
assez aléatoire.
C'est la brigade du kiff, finalement.
C'est la brigade du kiff.
Mais avec un siège tournant.
Exactement.
Bien
avec
résumé,
un siège.
Car il paraît que Cédric avec un travail, tout ouais, ça, non, un enfant, Cédric. Enfin bref, des fois l'homme n'est pas dispo. Quoi.
C'était déjà difficile pour lui de venir à 19h, alors à 16, franchement, c'est.
Il est bizarrement plus ponctuel à 16h qu'à 18.
C'est fou, non mais Cédric, mais c'est pour ça qu'on l'aime, putain.
Donc voilà, et eh ben j'espère que ça vous plaît les LM Crado cette annonce. Je pense que
oui,
ça...
et après juste on dit plus court, on va pas faire des épisodes d'un quart d'heure non plus. Hein,
ah
mais
non,
c'est juste on va peut-être pas faire 2h15.
On fera, mais... en fait on fera un kiff par voilà. personne parce que du coup on sera là toutes les semaines et ce sera un kiff par personne. Mais par contre il y aura de la digression.
Ouais. En fait ça va être plus long genre
temps.
Vraiment c'est sûr.
Hey, on est capable.
Il y a plus de sujet. Et ben top, allez 4h.
Non mais voilà, du coup ça change un petit peu, mais c'est bien, c'est la rentrée, voilà, faut un peu renouveler tout ça. Et donc moi ça me fait plaisir de me dire que ça va être toutes les semaines
intense. Car ça reste hebdo.
Ça reste
et
hebdo,
on va
bien
peut-être
sûr.
Aussi pouvoir, je sais pas, recevoir des gens cool, tu vois.
Ouais.
Genre,
bah il y a
Edouard
déjà.
Edouard
alors
Baird.
Edouard Baird, j'adorais. Les bah, situations,
la
bien.
Situation, on adorait. Il voilà. Y a eu Cyril de Koh-Lanta qui est venu.
Ah
oh,
on l'adore. J'ai pas encore écouté l'épisode, mais je l'ai
top, il flûte.
Je me garde de côté en mode oh là là, il y avait Cyril de Koh-Lanta.
Et donc voilà, c'est la fin de cette annonce, de toutes ces annonces. C'était un LMK, waouh!
Wow.
Fort en annonce, en kiff, en tout ça, tout ça. Mais.
quoi, t'as quoi? Arrête de te moquer de moi!
Elle est folle du cul.
On est zinzou, hein, on est zinzou aujourd'hui.
Mais voilà, en attendant, la semaine prochaine, vous pouvez écrire à LMK à l'adresse laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com pour nous envoyer vos jingles, vos dédicaces audio, et puis vos anecdotes de stars et vos commentaires, vous pouvez les mettre sur Apple Podcast.
Et dans ton cul.
Y'a plus de respect.
La tête d'Alix, c'était vraiment la blasitude totale. Elle m'a fait un regard caméra The Office, tu vois.
Putain, je suis un peu le Michael Scott de ta vie, c'est
ah
horrible.
Oui
oh, je viens de me rendre compte.
Je suis
toujours
total.
En face de moi
à me demander des louanges.
Une dynamique très saine.
Mais non, bien sûr, t'es bien mieux que Michael Scott. Et Michael Scott, tout le monde l'aime à la fin.
Oui, oui, oui. Après qu'il ait été très raciste quand même longtemps. Ça, c'est quand même un problème, Il est problématique aussi.
Il est problématique. Et en attendant la semaine prochaine,
touchez mon rien, Kiki!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.